Alors je pense que je vais enfoncer sans doute un certain nombre de contradictions, et puis voilà. Maintenant, comment dire, je vais donc a priori l'idée de cette conférence, c'est de poser un peu, conférence, quel grand mot, c'est de poser un peu, comment dire, là où moi j'en suis arrivé après pas mal d'années à réfléchir sur le sujet du bac à sable. Sur la manière dont, non seulement de ce que c'est, la manière de le préparer, la manière de le mener. Je pense que c'est quelque chose qui, pour fondamentalement, en fait, je me rendais compte hier soir avec les choses que j'avais à ma table, que c'est une manière de mener qui est finalement assez répandue, mais qui n'est pas forcément réfléchie en tant que bac à sable, plus en tant que mener de manière un peu ouverte, etc. Mais c'est lié, en fait. Donc l'idée, là, ça va être de passer, effectivement, des concepts initiaux, les définitions de ce que c'est, voir un peu comment on prépare un bac à sable, enfin, en tout cas, là où moi j'en suis arrivé de ma réflexion sur le sujet, puis la mise en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, enfin, comment on le fait jouer, voilà. Et puis, on passera, après une petite conclusion, on passera à vos questions et contradictions éventuelles. Donc, voilà, en sachant que c'est là où moi j'en suis arrivé de mes réflexions par rapport à la pratique de maîtriser en bac à sable, après pas mal de temps, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est abouti, parce qu'en fait, je continue à faire évoluer l'idée, même encore assez récemment, si on compare certaines choses que je pensais il y a 2-3 ans, et puis là où j'en suis arrivé aujourd'hui, ça a encore un peu évolué, donc ça peut encore avancer. Voilà. Donc, concept du bac à sable. C'est quoi un bac à sable? Assez traditionnellement, c'est quelque chose avec lequel on joue depuis finalement presque le début. Et dès le début des années 80, avec quelque chose comme les Wilderlands of High Fantasy, c'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins théorisé, mais d'un point de vue, plutôt d'un point de vue de la préparation du côté MJ que de la manière de jouer en tant que telle, je pense. À savoir que les Wilderlands of High Fantasy, qui ont été ensuite réédités, donc qui était chez Judge Guild au début des années 80, et qui a été réédité dans les années 2000 pour la V3. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les Wilderlands. C'est une grosse boîte. Alors à la base, c'était des tout petits fascicules, mais qui suivaient, qui étaient édités régulièrement. Et en 2003-2005, ils ont sorti une grosse boîte avec une douzaine de plans hexagonales, avec des petits hexagones numérotés, et toute une série de livrets à l'intérieur qui décrivaient par le menu hexagone numéro 676, 4 cobalts dans une vieille hutte qui fume la pipe, hexagone 912, une vieille sorcière montée sur un griffon qui attend les voyageurs isolés, etc., etc., etc. Donc à chaque fois, ils présentaient comme ça, et la carte était remplie de rencontres et assez courtes, d'événements. Alors c'était des petits paragraphes, hein, c'était plus qu'une phrase souvent, avec des petits paragraphes, mais c'était au MJ de compléter, de mettre ça en scène, et les joueuses étaient libres, vraiment, d'où le bac à sable, de prendre les directions qu'elles voulaient et de voyager sur la map exactement comme elles avaient envie. Et quelque part, c'était, pendant longtemps, c'était la définition du bac à sable, c'est une carte ouverte, vous faites ce que vous voulez, et le MJ a tout prévu à l'avance pour que vous alliez où vous voulez et que vous fassiez ce que vous voulez. Mais ça ne disait rien de la manière de jouer et de la manière de mener un bac à sable, c'est-à-dire que ça n'interrogeait pas l'interaction MJ-joueuse par rapport aux habitudes supposées du joueur, de la maîtresse de jeu qui guide ses joueuses sur un scénario et qui leur dit, oui, alors vous rentrez dans une pièce, qu'est-ce que vous faites? Et donc, si vous allumez la lumière, alors vous allez voir deux shoggoths en train de jouer aux dames. Par contre, si vous n'allumez pas la lumière, vous allez vous buter le pied dans la table basse, etc. Qui est le modèle classique du scénario écrit et rédigé depuis très longtemps, avec l'appel de Cthulhu qui a donné le modèle, puis tous les scénarios Casus Belli depuis l'origine, où c'est très rédigé comme ça. Bon, je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard pour expliquer un peu là où. Comment je perçois le truc, mais voilà. Donc ça, c'était le bac à sable. Et moi, quand j'ai commencé à bosser sur Oltré à la fin des années 2010, enfin, fin des années 2000, donc Oltré qui est sorti en 2013, je réfléchis, justement, j'étais sur ce modèle de, on a une carte vierge, il faut la remplir avant de lancer les joueuses dessus. Et donc un bac à sable, ça se prépare. Et c'était un des écueils du bac à sable, c'est-à-dire une surpréparation de la maîtresse de jeu pour créer son contexte. Parce qu'au lieu d'écrire une histoire sur des rails, enfin sur, en tout cas sur un, dans, pas dans un tunnel, mais dans une espèce de couloir comme ça, ou avec des ramifications, mais on se fout de ce qu'il y a autour. Là, on se retrouvait dans l'idée que le MJ doit penser son monde dans sa globalité avec tous ses détails avant de commencer à jouer. Et ce qui est un gros problème parce que ça demande un temps de fou furieux, ça demande beaucoup de préparation, etc. Et avec la question aussi, côté joueuse, qui se posait déjà à l'époque, de ok, je vous poke là au milieu de la map, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Parce qu'on est des aventuriers, mais enfin, on est d'abord des joueuses qui incarnent des aventuriers, qui ne connaissent pas le monde, qui n'ont pas d'objectif particulier, en tout cas au début. Donc il faut commencer par se créer des objectifs, se créer des directions à suivre, se créer des envies qui ne sont pas forcément là en début de campagne, même en milieu de campagne. Des fois, les joueuses, elles sont là, bon, on ne sait rien, moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, je sais pas, pour aller à la ville la plus proche, pour aller picoler à la taverne, quoi. Peut-être qu'il y aura une aventure qui nous tombera dessus. Mais avec cette espèce d'attente des joueuses, et donc cette question de mais comment on fait pour motiver les joueuses, impliquer les joueuses et leurs personnages dans une aventure bac à sable. Donc ça, c'était l'état de la réflexion au moment de la sortie d'Oltré. C'était là. Et j'avais écumé pas mal de blogs américains sur le sujet. Il y avait une espèce de consensus autour de cette idée que le bac à sable, c'est ça. Voilà. Et ce n'était que moyennement satisfaisant comme définition. Parce que ça ne correspondait pas forcément à l'ensemble des situations, et surtout ça correspondait pas forcément fondamentalement à, comme je disais, à l'interaction maîtresse de jeu joueuse quant à la manière de faire jouer autour de la table, et notamment de faire jouer en mode ouvert. C'est-à-dire que quand on a un scénario, enfin la MJ prépare un scénario qui est un peu voilà, machin a été tué dans un vieux manoir abandonné. Il laisse un héritage à son neveu qui vient pour enquêter, machin. Bon, alors toi tu joues le neveu, tu viens de recevoir une lettre du grand-père. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, de ton oncle qui est mort, qui te laisse une vieille maison abandonnée. Qu'est-ce que tu fais? Qui est une accroche classique, voilà. Mais après, fondamentalement, la question c'est comment on va jouer à partir de là? Est-ce qu'on joue de manière, ok, il a reçu la lettre, donc il va aller à la maison, donc il va trouver un truc, donc il va se faire ça, donc il va se faire ça, et le MJ a un chemin critique qu'il va suivre autant que possible en amenant les joueuses à toujours passer par les points qu'il a pris, ou alors c'est, ok, t'as une vieille maison, qu'est-ce que tu fais? Oh ben non, je vais plutôt aux vacances aux Bahamas. Ok, tu vas aux vacances aux Bahamas, et là il se passe des trucs, etc. Qui est fondamentalement une façon de suivre ces joueuses, où qu'elles aillent, et donc de faire du bac à sable. Et ça, cette manière ouverte de suivre ses joueuses, fondamentalement, je crois que c'est ça la vraie définition du bac à sable depuis. Et c'est quelque chose qu'on fait, enfin, que beaucoup de MJ font depuis très longtemps. Enfin, beaucoup de MJ qui ont lâché le côté, on suit un scénario, mais simplement, on a trois idées en haut d'une feuille. Alors, vieille maison abandonnée, l'oncle a été tué, machin, il laisse le truc, et puis, t'as trois lignes. Et à partir de là, tu fais 2 ans de campagne, parce que t'as pas besoin de plus, quoi. Et la préparation, elle se fait par accrétion. En fait, le monde se fait par accrétion de toutes les expériences des joueuses et des personnages, et de l'improvisation du MJ qui amène des nouveaux éléments, etc., etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se pratique par beaucoup de MJ depuis très longtemps, et pour autant, ils considèrent pas forcément que c'est du ils considèrent pas forcément que c'est du bac à sable. Et donc là, aujourd'hui, moi, ma définition du bac à sable, c'est un jeu dans lequel la MJ suit ses joueuses, comme elle suivrait un gamin de 4 ans qui avance. Simplement, bah, comme avec un gamin de 4 ans, tu es derrière lui, on va où il a envie d'aller. Si tu veux aller voir le grand arbre là-bas, on y va. Si tu veux aller voir, si tu veux aller, à la cage d'écureuil, on y va, peu importe. Si tu veux aller voir les canards, on y va. Tu es derrière, tu accompagnes, et tu as une main devant pour pas qu'il tombe. Voilà, juste ça. Et ça, c'est la manière pour moi de faire du bac à sable dans l'interaction entre l'AMJ et les joueuses. C'est-à-dire que l'AMJ, elle est derrière, et elle est force de proposition, mais seulement dans la direction où veulent aller les joueuses. Donc elle fait attention à, finalement, où ils mettent les pieds, mais pas plus. A contrario d'un scénario plus classique, enfin d'une manière de mener plus classique, où finalement l'AMJ prend la main des joueuses et les emmène en leur tenant la main. Voilà. Et encore une fois, c'est pas, je vais sans doute le dire plusieurs fois, mais c'est pas un jugement de valeur sur la qualité ou la fin, la comment dire, sur le plus grand intérêt de jouer en sandbox qu'en jouant en traditionnel, on va dire. Parce qu'il y a des joueuses qui aiment être tenues par la main, être emmenées, qu'on leur raconte une histoire, et voilà. Et il y a des MJ qui sont, pour plein de raisons, ont besoin d'être, finalement, que ce soit les joueuses qui leur tiennent la main, quelque part, aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur à ce niveau-là. C'est des préférences. Et, bon, ma préférence à moi va au bac à sable, parce que c'est vrai que ça me gonfle de tenir la main des gens. Et ça me gonfle qu'on me tienne la main pour me dire « c'est par là qu'on va ». Ben non, si j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Voilà. Après, encore, voilà, pour aller un tout petit peu plus loin par rapport au nom qui est donné, donc bac à sable, qui est souvent opposé à ce que moi j'appelle le scénario toboggan, le scénario un peu linéaire, toboggan, bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, le bac à sable, c'est un espace sécurisé, ouvert, dans lequel tu poques les joueuses. C'est sécurisé parce que c'est borné, d'une certaine manière, tu es là pour surveiller, pour, enfin, entre guillemets, le MJ ou les parents, enfin, par analogie, hein, toujours, sont là pour surveiller que tout se passe bien. Et le gamin, il peut faire ce qu'il veut, sauf manger du sable, on va dire. Mais il peut creuser, construire, s'allonger, faire des pistes pour les billes ou les petites voitures, enfin, peu importe, il fait ce qu'il veut. Et il a des outils éventuellement à sa disposition, une pelle, un seau, je sais pas quoi, enfin, un râteau. Il est dans un espace où tout est entre guillemets possible, même de ne rien faire, on va dire. Et à contrario, on a le toboggan qui, en fait, c'est pas simplement un toboggan où on se met le cul dedans et puis il n'y a plus rien à faire. C'est plus l'analogie des espèces de cabanes qu'on a sur les terrains de jeu où il y a une planche d'escalade d'un côté, et puis ensuite il y a des passerelles, il y a un pont à cordes, il y a une tyrolienne, il y a une petite cabane avec un toit, et puis une corde pour descendre, et puis à la fin il y a un toboggan. Et dans cet espace qui est aussi sécurisé, mais qui est restreint dans ses mouvements, tu peux faire que avancer, reculer, rester sur place, éventuellement Si tu veux vraiment échapper au truc, ça, on voit souvent les gamins qui, au lieu de passer à l'intérieur de la cabane, ils font le tour de la cabane par l'extérieur en prenant trois risques et en faisant un peu d'escalade, ou par le toit, enfin, voilà, ou qui remontent le toboggan, parce que c'est drôle aussi de remonter le toboggan. Donc, ils s'approprient un espace, mais qui est un espace linéaire, ou semi-linéaire, parce que des fois, il y a des embranchements, etc., etc., avec des obstacles, etc., avec des trucs à faire, à passer, mais c'est quand même relativement contraint dans un espace. Et les mômes, ils adorent ça autant que le bac à sable, des fois plus en fait. Et je pense que les jeux, c'est pareil. Voilà. Donc, ce serait comme ça qu'on pourrait définir un peu les deux extrêmes de la maîtrise. Et puis, bon, il y a tout ce qu'il y a entre les deux, bien entendu. Il faut pas se contenter de dire qu'il y a ça et rien d'autre. Il y a bien entendu tous les milieux. Et je pense que justement, la plupart des gens, en fait, jouent et maîtrisent dans cette espèce d'entre-deux où à la fois ils ont un scénario relativement écrit, ou posé avec un début, sans doute une fin, ou en tout cas un endgame possible, avec un certain nombre d'événements prévus, de lieux à visiter, etc. Et puis, ils laissent quand même les joueuses se débrouiller en donnant un petit coup de cornac une fois de temps en temps pour les remettre dans le droit chemin. Mais via un PNJ qui donne un conseil, via un événement qui leur dit non, mais en fait, c'est quand même par là qu'il faut aller, etc., etc. Mais c'est discret. Donc, on ne tient pas par la main, mais d'un autre côté, on ne laisse pas non plus courir à travers la prairie, quoi. Et la plupart des gens maîtrisent comme ça, moi compris d'ailleurs. Hein, en vérité, assez souvent, finalement, j'ai quand même des histoires qui peuvent être assez écrites, et puis après, par contre, dans l'interaction, je laisse libre. Bonjour. Je laisse un peu libre de faire les choses, quoi. Donc voilà un petit peu pour les concepts généraux. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, préparation. Comment est-ce qu'on prépare un bac à sable pour le rendre opérable. Alors, ou comment on prépare un scénario un peu écrit, mais pour le rendre vraiment opérable en tant que bac à sable. C'est-à-dire en tant que, ok les joueuses, voilà la situation initiale, voilà grosso modo les motivations de vos personnages, ou en tout cas on en a discuté, et puis fondamentalement c'est souvent en fait l'inverse. On commence par discuter des motivations des personnages, et puis le MJ, il écrit son scénario ou sa campagne en fonction du truc. J'avais fait ça sur un Warhammer, par exemple, fin de campagne précédente, et qui restait 1 heure avant la fin de la séance, et puis on finit la campagne, enfin on finit un gros truc, et ouais, vous voulez jouer quoi pour la prochaine campagne? On discute, quoi. Et les mecs, ils se mettent d'accord pour un Warhammer, et vous voudriez jouer quoi dans Warhammer? Ah, ce serait bien, ils discutent, bon, et ils finissent par se décider pour jouer une troupe de mercenaires. Et ils disent, comme thématique, on pourrait avoir un truc sur la vengeance. On aurait été trahi et alors on va chercher à se venger. Ok, rendez-vous semaine prochaine. Et j'avais une campagne avec, effectivement, le début, c'est la nuit, il pleut, vous courez, qui c'est qui porte le corps? Et on a attaqué au moment où ils venaient de se faire trahir, et ils étaient coursés par leurs ennemis, quoi. Voilà. Et à partir de là, bah, fallait bon, ils ont. Et moi, j'ai suivi. C'est-à-dire qu'à partir de là, moi, j'avais effectivement des grandes directions. En fait, je savais qui était le méchant, comment, etc. Pourquoi. J'avais deux, trois infos. Et puis, on a roulé, quoi. Et on a fait 1 an et demi de campagne hebdomadaire, sans vraiment transpirer, quoi, tranquille, avec des bons moments et tout. Donc, la question, c'est effectivement poser des personnages et puis leur donner à faire. Mais comment on écrit ça? Parce que c'est souvent le problème. C'est assez facile d'écrire une histoire un peu linéaire parce que on a souvent le modèle littéraire en tête, le modèle du roman. Il y a un début, il y a une progression d'événements qui arrive à une conclusion. C'est le modèle classique, Casus Belli, l'appel de Cthulhu, etc., avec une succession de moments. Et moi, c'est ce que j'appelle temporaliser un scénario. C'est-à-dire que les choses sont dans l'ordre temporel et sont présentées dans cet ordre avec des causalités constantes. Si les joueuses rentrent dans la pièce, alors ils peuvent faire ça, et si et c'est même pire, c'est même pas si les joueuses rentrent dans la pièce, c'est quand les joueuses rentrent dans la pièce, alors il peut se passer ça, il peut se passer ça, etc. Et si ils ouvrent le tiroir, alors ils trouvent, etc. Et donc, toujours des causalités et toujours une temporalité comme ça qui est posée sur le dans le scénario. Et c'est problématique parce que dès que, pour une raison ou une autre, une des joueuses prend une décision qui remet en cause la temporalité, il y a deux possibilités. Soit tu prends ton scénario, tu le jettes. Soit tu dis à la joueuse, ah non, c'est pas possible. Et il y a pas mal de MJ qui font, ah non, c'est pas possible. Tu restes sur la route. Voilà. Et certains MJ peuvent même être assez violents. Enfin, moi, j'ai des copains qui m'ont raconté les campagnes où ils étaient, ou des parties, où vraiment, c'est tout. Tu restes sur la route, bon Dieu. Et c'est très frustrant. Et, c'est très embêtant. Parce qu'il y a une prise de pouvoir, quoi. Et clairement, pour alors il y a des joueuses que ça dérange pas, parce qu'en fait, ils s'installent à une table de jeu pour profiter d'une bonne histoire, d'un conte. On raconte une histoire. Et elles sont là pour s'amuser à ce qu'on leur raconte l'histoire, pas forcément pour être agent de l'histoire. Donc ça c'est le scénario classique. Mais encore une fois, c'est un scénario qui dans son écriture est linéarisé, temporalisé, et qui peut être joué autrement. Il n'y a même pas de rapport entre le fait que ce soit écrit comme ça et la manière dont ça va être joué. Parce que ça peut aussi être joué de manière ouverte, sauf que c'est des scénarios qui nécessitent bien souvent, de la part de l'AMJ, une déconstruction, puis une reconstruction sous une autre forme, en prenant des notes, ou en surlignant dans le texte, les choses importantes, c'est-à-dire les points de repère, les accroches, qui vont servir à solidifier un jeu en bac à sable. Et donc, l'autre technique d'écriture, celle sur laquelle je travaille déjà depuis pas mal de temps et qui est, je commence à aboutir maintenant, c'est abouti au point où moi j'en suis, et en sachant que j'ai eu quelques retours et quelques quelques avis, mais pas encore suffisamment pour que mon modèle puisse se transformer encore complètement. Et c'est le fait de donc d'écrire de manière étale ou de manière je sais pas comment je pourrais le définir, mais de manière par case, on va dire, dans lequel on a des, en fait on range les choses par catégorie, on range les éléments du jeu par catégorie, et ces catégories, enfin ces éléments de jeu rangés servent de point de repère, d'accroche, et donc les joueuses elles sont au milieu, mais en tant qu'MJ, quoi qu'elles fassent, on peut toujours relier leurs actions ou leurs déplacements ou leurs intentions, etc., à l'un ou l'autre des points de repère qu'on a posé dans une carte mentale, en fait, une espèce de carte mentale, et qui c'est des références. Et ça permet, c'est des références qui permettent de toujours trouver une réponse cohérente et informée à toutes les demandes ou toutes les propositions des joueuses, quelles qu'elles soient. Parce que on a une liste de figurants avec leurs intentions, on a une liste de lieux avec leur importance, et puis il y a le background du monde qui doit aussi être posé et réfléchi de cette manière, de manière à former une trame. Et on joue sur cette trame, en fait. On brode sur une trame existante, mais on brode le motif qu'on veut, et de toute façon, il sera toujours bien posé par rapport à tout le reste. Voilà. Et donc, toute la question, c'est comment écrire une trame avec ses points de repère, avec ses accroches, etc. Qui va servir à la MJ pour toujours avoir une référence, un point d'accroche, voilà, une ligne de vie. Donc moi, j'en suis arrivé à un modèle relativement simple, je crois, en tout cas moi qui me sert bien, qui a l'air de fonctionner pour un certain nombre de gens. Et surtout, je crois presque le plus important, c'est que les quelques personnes qui se sont essayées à l'exercice et qui ont écrit des scénarios en suivant ce modèle-là, quand moi je prends leur PDF avec leur scénario écrit, je le lis une fois en 5 minutes et je suis prêt à maîtriser. Donc je me dis, ça doit marcher pas mal. Bon, après, encore une fois, hein, c'est une proposition, ça demande aussi des retours, ça demande des discussions, c'est pas forcément abouti, voilà. Mais, grosso modo, j'en suis arrivé à l'idée que on a besoin d'un monde solide en sous-texte, c'est-à-dire on a besoin des logiques et des cohérences de l'univers. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un moteur physique, social, économique éventuellement, qui soit assez carré. Alors, c'est par exemple relativement facile quand on joue du contemporain ou qu'on joue sur notre monde, avec ou sans magie, peu importe, parce que, ben, voilà, tu lances une pierre, elle retombe. Et en plus, elle retombe à une certaine vitesse et à une certaine distance en fonction de la force à laquelle tu l'as lancée, de la masse de la pierre, etc. Ça se calcule, c'est de la balistique, voilà. Donc, il y a des lois physiques qui fonctionnent. L'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, etc. Et puis, on sait aussi que, ben, si tu parles poliment à quelqu'un, il y a plus de chances qu'il te réponde favorablement que s'il lui dit, si tu arrives et tu fais, bon, ma grosse mère de banquier, là, tu vas me faire un prêt? C'est pourquoi? Ça te regarde pas? Ah, là, tu es sûr que ton prêt, tu te le colles où tu penses, il n'y a pas de problème. Alors que si tu vas presque le chapeau à la main, bon, le prêt, tu vas l'avoir, quoi. Bah, normalement. Donc, on sait qu'il y a des dynamiques sociales qui fonctionnent d'une certaine manière. Quand un mec de 120 kilos dit un truc, un mec de 70 kilos ferme sa gueule. Voilà, c'est aussi ça, enfin, quelque part, on va dire. Et donc, tout ça, ça forme une trame de cohérence qui déjà pose les fondamentaux du monde. Et c'est valable même pour un monde de fantasy qui n'est pas sur Terre, etc. Une fois que tu as dit que bah, la physique, c'est la même que celle de la Terre, déjà, tu poses des choses dans la tête des joueuses, puis surtout, tu poses des choses dans la tête de la MJ, où elle sait qu'elle a cette assise, cette référence. Voilà. De la même manière, si tu dis ah, les gens sont plutôt polis entre eux parce que ça évite les problèmes, ça te fait un truc. Par contre, si tu dis que c'est un monde où c'est la loi du plus fort qui fonctionne et que, de toute façon, être poli, ça sert à rien. C'est aussi poser un fondamental qui sert de point de repère, d'assise, etc. Donc, avoir un monde qui a une cohérence, ça ne veut pas forcément dire décrire l'ensemble des châteaux, des villes, des villages, l'ensemble des PNJ, des factions du monde, etc. Pas d'intérêt. Et puis, ça ne donne pas d'informations sur la cohérence de l'univers, en fait. Vaut mieux, à mon avis, travailler vraiment sur comment les choses s'articulent entre les sociétés, l'environnement, les contraintes éco-socio-politiques, etc., etc. Voilà. Et une fois là, bah, déjà, on a une trame qui est posée et qui sert de référence parce qu'on peut toujours, quand tu veux faire un truc, ah, je veux soulever le rocher, il fait une tonne, donc tu peux pas. Ah, voilà, bah, c'est la physique. Oui, mais si j'ai une grue, ah, ça c'est autre chose. Si tu as une grue, c'est sans doute possible. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà. On peut comme ça, en posant bien, en synthétisant bien le modèle d'univers, déjà on a une accroche solide. Et puis après, il y a l'histoire. Ben, l'histoire, c'est pareil. Enfin, quand tu vas développer, à partir de cet univers, tu vas développer une histoire. Ben, c'est un peu pareil, tu n'as pas forcément besoin de tout décrire. Par contre, tu as besoin d'écrire les choses qui vont faire sens dans l'histoire. Donc, souvent, c'est les lieux. Donc, ben, voilà, moi, j'ai tendance à décrire généralement 4-5 lieux qui vont être un peu moteurs le vieux moulin, parce qu'à cet endroit-là, il se passe ça, et puis on y fabrique tel truc important pour le village, et puis que, etc., etc. J'y lis pas forcément encore les gens, hein, je pose vraiment les lieux. La tour du château, mais qui a brûlé, mais il y a des rumeurs à son sujet par rapport à cet incendie, et puis gna gna gna, voilà. Et puis encore un autre lieu, et puis voilà, y compris des lieux de passage, et puis des lieux secrets, voilà. Et puis après, je pose des factions. Alors les factions, ça peut être des personnes uniques, ça peut être des organisations qui sont locales ou externes, même loin, mais qui ont des agents sur place, etc., ou qui ont une influence. Et ces figurants ou ces factions sont, comment dire, vont être agissantes et réagissantes dans le setting. C'est-à-dire qu'à la fois, elle pose les dynamiques à venir, et en fonction de ce qui se passe, elles peuvent changer de dynamique, et puis elles peuvent servir surtout de quelque part de point de rebond pour les joueuses, quoi, qui vont devoir choisir les choses. Et par principe, avant que les aventuriers arrivent, toutes ces factions, on les place dans un état de, pas d'équilibre, mais un état de stase. Elles sont dans des dynamiques ascendantes, descendantes, voilà, elles ont des choses à sur lesquelles elles vont réagir, elles ont des objectifs, elles ont des moyens, elles ont des faiblesses. Bonjour.
Tu veux un truc à boire peut-être? Non, ça va. Je vais faire ça.
Mais elles sont figées. Et ou en attente, ou comment dire, dans l'expectative de quelque chose, ou parce qu'elles ne peuvent pas être encore en état d'agir pour plein de raisons. Et c'est l'arrivée des joueuses, enfin des personnages, qui va mettre en branle petit à petit l'ensemble de ces factions. Parce que les joueuses vont arriver, vont être confrontées à quelque chose, elles vont réagir, et parce qu'elles réagissent, ben, pum pum pum, il y a des énergies et des dynamiques qui vont tout d'un coup mettre en mouvement les factions et les figurants. Voilà. Et en cours de jeu, ben, l'idée c'est de s'accrocher à ces éléments. Si vous faites ça, ben, en fait vous allez apprendre, parce que vous parlez à un paysan sur le coin du chemin, ben, vous apprenez que, ah oui, ben, ouais, vous auriez pu trouver ce que vous cherchez, mais c'était à la vieille tour, mais elle a brûlé. Donc, ah ouais, il y a une vieille tour, c'était là, mais elle a brûlé, mais pourquoi elle a brûlé? Poum, question, pourquoi elle a brûlé? Et puis là, on commence à se renseigner, et puis voilà. Et en fait, à chaque fois que les joueurs vont faire un truc, il y a toujours moyen de raccrocher à un figurant, à un lieu, un truc. Et quand il n'y a pas moyen, eh ben on invente un nouveau lieu, on invente un nouveau figurant, et puis c'est pas grave, voilà. On essaie de le raccrocher à tout le reste et à la cohérence de l'univers. Voilà. Donc, tout ça, donc les lieux, les figurants, les factions, ça permet de créer. Des fois, c'est assez marrant parce qu'on peut juste partir de. Moi, j'utilise beaucoup des générateurs aléatoires de ces textes que j'ai mis, d'ailleurs, qui sont sur mon gratuit et qui sont dans Cœur Vaillant. Qui plein de mots-clés, des choses que. Voilà, les motivations, pourquoi ils font ça, quelle est leur plus grande faiblesse, leur plus grande force, etc. Et des fois, je pars juste de ça. Puis, j'ai aucune idée de l'histoire. Hein. Puis, je commence à dire, ah ouais, tiens, alors, une bande de brigands voleurs de grand chemin, gna gna. Alors, ils ont comme motivation la richesse, mais ils ont comme faiblesse tel truc. Et puis, leur objectif, ils ont besoin de réagir à quelque chose qui vient d'arriver, et ils ont des choses à faire. Et puis je regarde ça, je dis, ah ouais, donc ça pourrait être ça, 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 machin. Je commence à poser des trucs, je passe à la faction suivante, pareil, je trouve ça, puis je fais, ah ouais, mais en fait, eux, c'est parce que tac, et puis machin, puis je passe à une troisième faction que j'invente, enfin, que je décrypte à partir du tirage aléatoire, et tout d'un coup, poum, j'ai une histoire. Parce que j'ai une dynamique entre trois factions, ou cinq factions, peu importe. Et puis en lisant les sous-textes, en regardant entre les lignes, tout d'un coup tu te dis, ah ouais, mais en fait, le véritable enjeu, ce serait quelque chose de cet ordre-là, Alors un objet, une histoire, un truc du passé, une convoitise sur tel ou tel endroit stratégique ou position stratégique dans la région, et un truc. Et ça va être ça l'enjeu. Et donc, poum, je me retrouve avec des dynamiques et avec une histoire qui se crée assez naturellement. Et si je rajoute des lieux, pareil, que j'ai tirés de manière aléatoire, avec des mots-clés, etc., ben, je peux relier les lieux à telle ou telle faction ou pas, les laisser de côté, dire, ah ouais, mais celle-là, elle a un enjeu particulier, ou ça peut être simplement, elle n'a pas d'enjeu, mais ça pourrait être une opportunité pour les joueuses, ou ça pourrait être un danger pour les personnages, tu vois, etc. Et je construis mon truc et ça va assez vite, hein, parce que ouais, un gros scénario en 1 heure ou 2 heures, il est calé quoi, en utilisant cette méthode-là. Ça va, faut un peu d'habitude sans doute. Je dis pas que c'est facile du premier coup, mais je pense que c'est pas compliqué, même pour quelqu'un qui a jamais fait, de prendre le truc et puis poum, hop, c'est fait. Ça va assez vite parce que les idées, on les a en fait. Et là, c'est des embrayeurs d'idées et ça marche généralement bien pour libérer parce que libérer l'imagination parce que ben voilà, on sait que l'imagination fonctionne bien mieux quand il y a des contraintes, toujours. Parce que quand tu te bloques contre un mur, poum, ça fait des étincelles. Donc ça marche bien. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de créer ces trucs-là. Et puis une fois qu'on a comment dire, qu'on a un peu les idées des factions et des lieux, de manière. Alors faut les poser de manière assez carrée, mais c'est pas long, hein. C'est 3 lignes pour dire c'est quoi la faction, et puis trois puces, une liste à puces avec 3 points, qui dit voilà la faction en fait, ta ta ta, et puis en fait le secret c'est ta ta ta, et puis son objectif c'est ta ta ta. Et un paragraphe, hein, ça va très très vite. On n'a pas besoin d'écrire des pages. Voilà. Et une fois qu'on a ça, ben, il y a 2 choses qu'on peut faire à partir de là. C'est l'argument. C'est-à-dire, tu résumes, au début de ton doc, tu résumes la situation. À telle faction, elle veut tel truc, mais elle se heurte à telle autre faction, et à cause du lieu, machin, et puis les personnages vont arriver là en faisant ça. Poum, une demi-page, et tu as déjà cadré ton scénario, ton histoire. Et à la fin, il y a une dernière section, donc tu commences avec l'argument, qu'est-ce qui se passe, les lieux, les factions. Alors au début, je faisais les factions, les lieux, et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent quand je parlais des factions, je commençais à parler des lieux. Alors que quand je parle des lieux, je parle rarement des factions, puisque les factions sont mouvantes, alors que les lieux sont fixes. Donc je commence par les lieux, puis je passe sur les factions, ça permet de bien cadrer les trucs. Et après, j'ai une section qui s'appelle mise en jeu. Et mise en jeu, c'est quoi? C'est généralement ça commence par les personnages vont être comment dire, impliqués dans cette histoire de cette manière ou de cette manière ou de cette manière ou de cette manière. Je trouve 3-4 solutions. Je réfléchis un peu à l'avance sur est-ce qu'ils vont arriver par tel point, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils, etc. Ça permet d'avoir déjà soit une idée de plein de choses et ce qui n'empêchera pas à une table donnée de trouver encore complètement autre chose parce que la joueuse, elle arrive avec une idée et que c'est trop fun. Bah, typiquement, hier après-midi, il y a une des joueuses qui crée un forgelin et qui une espèce de chevalier forgelin et qui lui donne un nom de noble, Baudouin de Choiseul. Et j'étais là, oh, pas mal, parce que le scénario commençait avec un seigneur qui a besoin d'un coup de main d'une équipe d'aventuriers pour faire un truc. Ok, du coup, bah moi c'était facile. Le seigneur en question, c'est ton neveu. Et toi, tu as un lointain ancêtre qui était vivant à une époque, qui a été transformé en chevalier mécanique. Bon, et lui, c'est ton arrière-arrière-arrière-petit-neveu, mais tu vas le voir à tous les ans, tu vas voir tes ancêtres à chaque fois, enfin tes descendants ou tes co-descendants, et tu leur fêtes l'anniversaire. C'est l'anniversaire de ton neveu, enfin. Là, ça va être l'anniversaire de ton neveu ce mois-ci, donc tu es en route pour le château, et là, arrivé au château, on me dit, ah oh, putain, il y a un problème, mon oncle, pouvez-vous m'aider? Donc, tu vois, l'accroche, elle était donnée par la joueuse, quoi. Alors que j'en avais quelques autres, hein, de possibles, y compris qui tombent directement dans le problème en question et qui débaroule là-dedans sans savoir de quoi il s'agit. Voilà. Mais j'ai trouvé que voilà, la joueuse me proposait une ouverture qui était fun et on en a profité, quoi. Donc voilà, on profite des choses. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on parlera de mise en jeu, vraiment, que en fait, on profite en permanence, quoi. Et donc, voilà, dans la section mise en jeu écrite, ben, on va parler de ça, puis ensuite, on va prendre, comment dire, faction par faction, en disant, voilà, cette faction, elle a tel objectif, qu'est-ce qu'elle fait pour... quelles sont ses actions pour arriver à cet objectif? Et comment elle peut réagir face à l'intervention des personnages. De manière large, hein. Est-ce qu'elle va chercher leur alliance? Est-ce qu'elle va être en colère contre eux et chercher à les éliminer? Est-ce qu'elle va les ignorer? Est-ce que ça n'a aucune importance par rapport à ce qu'elle veut faire, etc. Donc tu prévois un peu à l'avance comment la faction peut réagir. Puis, ok, bah, cette faction, pour atteindre tel objectif, faut d'abord qu'elle fasse ça, puis qu'elle fasse ça, puis qu'elle fasse ça. Et donc, tu as une liste de toutes les choses que la faction va tenter de faire pendant le scénario. Pendant que l'histoire va se dérouler. Et tu fais ça pour chaque faction. Résultat, quand les joueuses vont être en train d'agir, bah à certains moments, elles vont apprendre que ah mais machin a fait ça. Ah bah ouais, mais et du coup, ma truc, il a réagi en faisant ça. Et donc le monde, il est vivant autour. Et si elles font un truc, bah, tu peux le relier à ces événements, soit parce que les joueuses ont fait un truc qui empêche tel événement d'arriver ou qui modifie ses conséquences. Soit qu'elle va précipiter un nouvel événement, etc. Et donc on se retrouve avec comment dire, avec un monde qui est dynamique, vivant, parce que c'est prévu d'entrée de jeu, mais c'est pas prévu temporellement. C'est prévu de manière ouverte, c'est là, c'est des références qu'on peut activer ou pas activer en fonction des circonstances. Typiquement, dans un scénario d'enquête, c'est souvent la problématique dans le scénario d'enquête où tu as un indice qui est entre les mains d'un SDF qu'on ne peut trouver que le mardi de 17h23 à 22h02 à telle adresse, enfin, dans telle rue. Ouais, mais si les joueuses pensent jamais aller dans cette rue à cette heure-là pour rencontrer le mec, l'indice, voilà. Donc en fait, un indice, typiquement, c'est le principe. Un indice dans les scénarios d'enquête, c'est quelque chose qui n'a ni masse ni énergie, c'est une information. Ça n'a pas de masse, ça n'a pas d'énergie. C'est une information qui est là et qu'il va falloir mettre dans les mains des joueuses à un moment ou à un autre. Ben, dès que les joueuses en donnent l'occasion, parce qu'elles vont interroger telle personne ou qu'elles vont à tel lieu, peu importe, mais que de manière cohérente et assez logique, l'information peut être disponible, alors elle est disponible. Et le support va changer en fonction des besoins. Voilà. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que toutes ces informations qu'on a notées, la MJ peut les mettre en jeu de toutes les manières possibles, sous toutes les formes possibles. Ça peut être une rumeur, ça peut être, les joueuses peuvent en être témoins. Ça peut être annoncé, ça peut être au contraire appris seulement plusieurs heures après, alors qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre-temps, peu importe. Mais l'information peut leur parvenir. Elles peuvent même parfois participer. Si une faction avait prévu le truc et qu'elle s'est alliée avec les joueuses, ben, au lieu que ce soit la faction qui fasse le truc, elle demande aux joueuses, est-ce que tu peux faire le truc pour nous? Et donc les joueuses sont vraiment actrices d'aller faire la chose. Et tout ça se prévoit pas. C'est un des principaux trucs du bac à sable, d'ailleurs, c'est que en fait, on prévoit les repères, on prévoit la trame, on prévoit la cohérence, et tout le reste, la manière dont c'est mis en jeu, la manière dont dont les choses vont interagir, etc., ben, tu prévois pas. On ne sait pas à l'avance quelle va être la temporalité de l'histoire. Et peut-être que l'histoire, en plus, elle partira encore ailleurs, et peut-être qu'il y a des dynamiques qui vont apparaître pendant la table, parce que tu les as pas prévus au moment de la préparation, mais ça devient une évidence pendant le jeu. D'abord parce que le jeu, il est long, donc ça entraîne à beaucoup de réflexions, surtout sur plusieurs semaines, plusieurs séances. Ça entraîne à des réflexions, et tout d'un coup, il y a des nouvelles idées qui viennent. mais que tu n'avais pas besoin de prévoir au début, en fait. Donc, au début de ta préparation, tu as écrit ton scénario en 1 heure ou 2, et après, tu joues plusieurs semaines, et les éléments supplémentaires, tu vas les ajouter parce qu'ils sont pertinents pour cette campagne, à cette table. Là encore, c'est un concept qui est important, c'est un bac à sable, il est valable, enfin, il est écrit pour toutes les tables, mais il ne se réalise que pour chaque table individuellement, puisque chaque table individuellement va réagir différemment, va interagir différemment avec le setting. Et du coup, autant un scénario un peu cadré, un peu dirigé, temporalisé, va être joué de la même manière par des dizaines de tables, autant un scénario bac à sable, c'est unique. Moi, à l'époque d'Oltré, quand je faisais plein de conventions et que je faisais jouer le scénario d'introduction, généralement, en 10 minutes, j'avais des résultats complètement différents. 10 minutes de jeu, hein, j'avais des résultats complètement différents sur le setting, comment il allait évoluer. Et d'un autre côté, et c'est sans doute ce qui fait la célébrité ou la renommée de ces campagnes, quand tu interroges des gens qui ont fait l'Orient Express pour Cthulhu ou les masques du Nyarlathotep, ils racontent tous la même histoire. Ils ont tous la même expérience de jeu, ils sont tous passés par les mêmes trucs, ils ont tous affronté les mêmes monstres, plus ou moins dans le même ordre. Et ça crée des souvenirs communs, ça crée une culture commune bah, qui est imbattable. Parce que du coup, bah ouais, les masques du Nyarlathotep, c'est un truc, tout le monde en a joué un bout, hein, sans doute. Ou tout, d'ailleurs. Et tout le monde a la même histoire à raconter. Et donc, ah ouais, mais quand vous avez affronté le Shoggoth de la troisième salle, ça s'est passé comment? Ah bah non, machin, il s'est fait bouffer. Ah bah pas nous, parce qu'on avait récupéré dans la salle d'avant tel truc. Ah bah non, on n'a pas visité la salle d'avant, on l'a visité qu'après, quoi. Voilà. Mais c'est le même scénario. Et les gens racontent la même chose. Voilà. Donc, un bac à sable, c'est impossible. Un bac à sable, enfin, c'est presque pas possible, en tout cas. Il y aura des points d'accroche, mais dans l'ensemble, le monde, enfin, le setting aura évolué de manière très différente selon les tables. Du coup, au moment de la préparation, donc on a cette mise en jeu dans laquelle on va essayer de lisser les trucs. Alors, j'ai plein d'exemples. Là, dans les bouquins de Kervaillant, à la fin, il y a pas mal de scénarios qui sont sur ce modèle-là. Mais vous en trouverez aussi en gratuit sur le site, dans les gratuits du mois. Il y a un paquet de choses qui ont été écrites et qui sont dispo gratuitement si vous n'avez pas d'argent. C'est pas grave. Ça existe quand même pour voir des modèles. Voilà. Donc ça c'est la préparation. Parmi la préparation, il y a un truc aussi qui est important. Enfin, il y a encore deux, trois trucs dont on peut parler. Il y a la notion on aura peut-être plus en parler dans mise au jeu, mais on va en parler maintenant. La notion du fait que quand tu écris un bac à sable, tu écris des choses en dynamique, mais qui peuvent être très longues à jouer, des fois plusieurs semaines, des fois 2 ans, 2 ans et demi. Mais en fait, contrairement, je dirais presque, contrairement à un scénario, je crois, enfin, tel que j'envisage un scénario plus écrit, temporalisé, un bac à sable, l'avantage, c'est que tu peux prendre un bac à sable très long et le faire jouer en une après-midi, ou inversement, prendre un bac très court et le faire, comment dire, le faire durer, parce que tu peux placer le curseur du début de l'aventure où tu veux. Donc, si tu veux un truc long, tu le places au tout début, quand aucune des factions n'a bougé, que les joueurs sont pas, enfin, les personnages sont pas encore arrivés sur le setting, qu'il n'y a rien qui se fasse, et qu'il y a encore toutes les informations à réunir. Tu peux aussi le placer très près de la fin, en donnant les informations initiales aux personnages, et en plaçant les factions dans un état avancé de leur état. Au moment où il y en a une qui est prête à tomber, une qui est prête à gagner, une qui est prête à, etc., etc. Mais finalement, il n'y a que les dernières scènes et le dernier moment à développer pour arriver à une conclusion. Donc, on peut placer le début d'une histoire à peu près où on veut sur un sandbox. Il suffit juste de choisir un point où soit les factions ont déjà agi, soit elles n'ont pas encore agi, soit elles sont presque au bout de leurs histoires à elles. Et là, on se retrouve effectivement à pouvoir gérer même un gros bac à sable. Pim, là, dans la durée qu'on veut. C'est une séance, deux séances, trois séances. Si on joue en club et qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça peut être assez pratique. Voilà. Ça veut dire gérer l'infodump initial, alors sans en mettre à la gueule des joueuses, mais juste en leur donnant les éléments les plus critiques pour qu'elles puissent rentrer dans l'histoire et agir, et leur donner un rôle. Alors, pour le coup, non pas un rôle de on arrive, on découvre, on va choisir, mais en leur fixant un truc, ok, vous êtes là pour ça. Vous allez aider telle faction, vous allez faire tel truc, on vous a engagé pour tel résultat. Et là, elles se retrouvent dans un setting et on se retrouve dans un truc plus pointu, et qui arrive plus vite à sa conclusion. Parmi les autres trucs en préparation d'un bac à sable, il y a deux choses qui me semblent importantes en plus du texte qu'on peut avoir à rédiger. Alors, encore une fois, hein, quand on écrit pour soi, des listes à puces avec trois notes, ça tient en une page, à quatre, et t'as tout, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut aller vite. Et tu peux rédiger un peu plus finement, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y a deux autres choses qui peuvent être utiles. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les plans. Parce que. Et les cartes. Beaucoup les cartes, en fait. Les plans de ville, les cartes de lieu. Pas forcément la carte générale, hein, mais la carte de l'endroit. À chaque fois que je peux, parce que ben ça fait partie des points d'accroche et de cohérence. Et je me suis rendu compte récemment que, parce que j'ai une campagne dans New York de nos jours où les joueuses utilisent beaucoup, enfin on est en distanciel donc c'est assez facile, on utilise beaucoup Google Street View. Ouais, vous arrivez dans tel quartier, voilà. Allez, vous êtes dans telle rue. Et mec, Google Street View, la rue, elle ressemble à ça. Et en fait, juste les photos de la rue, ou un plan, ou une carte, ben, c'est une accroche de cohérence. Parce que tu regardes le truc et tu fais, ben, ouais, vous pourriez rentrer, tu regardes la photo, tu fais, ben, la porte d'entrée ressemble à ça. Et puis en fait, ben, vous voyez qu'il y a un étage de l'extérieur, et puis il y a une porte de garage, et puis il y a une fenêtre sur le côté. Qu'est-ce que vous faites? Par où vous rentrez? Mais du coup, tu t'accroches à un truc de cohérence. Pour raconter quelque chose. Et un plan ou une carte, ben, il y a aussi une cohérence. Tu vois où sont les vallées, où sont les montagnes ou les collines qui sont plus difficiles à passer, où est la forêt, où est la rivière. Donc tu sais, tout d'un coup, tu sais quelles sont les voies de communication les plus rapides, les plus discrètes, les moins rapides. Et tu as une idée de la manière dont les factions peuvent être positionnées sur la carte aussi, dans un certain nombre de cas, pas toujours. Mais t'as moyen, ça fait partie des outils d'accroche, enfin des outils de référence à laquelle on peut toujours se raccrocher pour déterminer la manière dont l'histoire va avancer et dont les joueuses, si elles choisissent tel ou tel truc, librement, mais comment tu vas pouvoir raconter les conséquences ou raccrocher tel truc. Vous choisissez passer par le vieux bois, ah bah vous allez tomber sur le lieu secret. Dont je vous avais pas parlé parce que c'était un lieu secret qui était caché dans les bois. Mais si vous passez par les bois, vous allez le trouver. Si vous passez pas par les bois, bah, peut-être qu'il faudra attendre que quelqu'un vous dise d'aller dans les bois, quoi. Voilà. Mais ça permet comme ça d'accrocher les trucs. Donc les cartes, les plans, les cartes de ville, c'est vachement bien aussi parce que ouais, il habite à telle adresse et ah ouais, mais nous on est complètement de l'autre côté. Mais comment on peut le faire pour machin avant que ce soit l'heure d'eux, etc. Bon. Ça pose plein de questions, ça ouvre des possibilités narratives, etc. Les photos, donc, ou les images peuvent être aussi des accroches. Quand tu montres une photo d'un lieu ou une image d'un lieu, dans son ensemble un peu, ou d'une pièce, ben, ça t'accroche à des possibilités. Typiquement, à un moment donné, j'avais fait quelques scénarios dans une espèce de Corée. Enfin, Corée cyberpunk et j'avais récupéré des plans d'appartements de coréens et à un moment donné il y avait des scènes qui se passaient dans l'appartement avec un appartement typique quoi dans une tour etc. Et en fait, ça avait servi parce que ben, du coup, on voyait où était la chambre, où était la salle de bain, où les personnes s'étaient cachées, où les gens qui rentraient, où les personnages pouvaient se cacher en attendant que les gens rentrent, etc. Comment ils pouvaient. Et en fait, ben, le fait d'avoir un plan un peu carré, ben, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un élément de cohérence. Du coup, ça évite que ça flotte. Et les joueuses, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles sont dans un cadre, l'appartement, dans lequel elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, sans même demander forcément son avis au LMJ. Moi, je me planque dans la salle de bain. T'as pas besoin de demander à l'LMJ, est-ce qu'il y a une salle de bain? Et à quoi elle ressemble? Donc tu vois qu'elle est là, que la porte est là, que la douche elle est là. C'est marqué sur le plan. Donc tu peux prendre des décisions informées en tant que joueuse pour faire agir ton personnage, parce que tu as les éléments de cohérence qui vont t'y aider. Voilà. Et puis, dernier truc en termes de préparation, c'est tout ce qui est les générateurs aléatoires. C'est pratique. Alors, des fois, c'est encombrant autour de la table, mais c'est pratique. Moi, je sais que j'utilise, comme j'ai mon ordinateur qui est souvent ouvert, j'utilise un Inspiration Pad Pro, qui est un petit programme gratuit, qui n'est plus trop soutenu maintenant, mais qui est gratos, avec des tables aléatoires qu'on peut faire fabriquer soi-même. C'est des points TXT en fait. Enfin, ils sont renommés un peu, mais fondamentalement, c'est des textes avec des listes et un système, un moteur qui permet d'aller tirer au hasard dans les listes, et y compris de faire plein de listes et d'imbriquer tous les tirages dans un seul résultat modélisé, etc. Et donc, j'ai ça pour les noms de taberges, les noms des PNJ, les noms des lieux, des villes, la gueule des monstres, etc., etc. J'utilise beaucoup ça aussi pour créer en fait le setting en tirant aléatoirement les factions et leur contenu, etc. Et en partie, c'est quand même pratique de l'avoir de manière automatisée, de faire clic et d'avoir les résultats qui s'affichent d'un clic parce que. Voilà, tu cherches un nom de PNJ, tu l'as tout de suite. Alors que dans un bouquin, t'as beau mettre des listes, et c'est ce que j'ai fait dans pas mal de trucs, t'as des listes de noms, voilà, ça peut être un peu plus long, mais fondamentalement, ça aide. Alors, le truc des générateurs aléatoires, c'est que c'est aussi bon et aussi pratique que la question posée est intéressante. Le principal truc pour créer un générateur aléatoire, c'est de poser la bonne question. Alors ça peut être aussi simple que quels sont les noms des auberges dans l'univers? Et t'as des noms d'auberges. Ou quel est le dernier événement que la ville a connu, par exemple. De manière aléatoire. Bon. Donc le plus important, c'est de trouver la bonne question. Et après. Tu fixes un nombre fini de réponses. Alors généralement, ça correspond à un dé ou à un ensemble de dés. Alors, de manière, si possible, de manière linéaire, hein, une table aléatoire à 2D6, elle a une cloche. Hein, donc ça veut dire que tu auras plus souvent les résultats du milieu que les résultats extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un dé linéaire où tous les résultats sont les mêmes. Enfin, tu as les chances d'obtenir chaque résultat est le même. Alors, une des bonnes solutions quand tu as des nombres bizarres, c'est d'utiliser des dés composés, donc des dés 100, mais que tu fais, par exemple, tu lances un dé 3 et un dé 6, donc tu as un dé 36. Et chose intéressante, c'est qu'un dé 36, c'est 18 solutions. C'est 3 fois 6, 18. Un dé 66, c'est 36 solutions. 6 fois 6. Et donc, on lance deux dés 6, et puis on les lit comme avec des. Comment dire dizaines d'unités de manière classique comme un des 100. Donc le des 100, bien sûr, sans solution, le des 20. Et puis après, tu peux faire des trucs où tu lances un des 20, mais 1, 2, 3, c'est la première colonne, 2, 4, 5, 6, c'est la deuxième colonne, et du coup, tu as 40 solutions. 20 fois 2, voilà. Donc il y a plein de méthodes, mais pour la plupart. À moins que tu aies vraiment besoin de quelque chose où tu as plus de chances de tirer l'épée magique plus 1 que l'épée Vorpal plus 3, auquel cas tu mets l'épée plus 1 entre 6 et 8 et tu as le maximum de chances avec 2d6 d'obtenir une épée plus 1, et tu n'auras l'épée Vorpal que si tu tires double 6 par exemple, et l'épée maudite si tu tires double 1. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, d'usage d'un tireur aléatoire à courbe. Et donc, le double intérêt d'un générateur aléatoire, quand on le fait soi-même, c'est d'abord de choisir la question à laquelle on veut répondre, et puis après, mettons qu'on ait 20, qu'on ait 20 réponses à fournir, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que les 10 premières réponses, c'est 3 minutes. Vous savez que c'est... Voilà. Quels sont les animaux des sous-bois que je peux trouver dans ce sous-bois? Okay, des sangliers, des lapins, des mouillets, des hermines, des fouines, des machins, des trucs. Tu remplis tes 10 premiers, puis tu arrives au 10e et tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les cerfs, ah, puis les daims d'ailleurs. Puis après, scolopendre, vousier, et puis il te faut 1 heure de plus pour faire les 9 suivantes. Et tu arrives à la 20e et tu fais, je sais plus moi. Oh, les moustiques, j'avais oublié les moustiques, et bim, tu mets les moustiques. Voilà. Ça prend du temps, mais du coup, ça vous oblige, quand vous faites le truc, à vraiment réfléchir, y compris à tous les trucs pas évidents, à toutes les petites subtilités qu'on peut trouver comment dire, dans une table, enfin dans les sous-bois ou des noms d'auberges. Au bout d'un moment, tu es obligé de sortir de ta zone de confort pour vraiment te creuser la tête et éventuellement aller chercher des références. Quand tu écris une liste de 50 repas servis à l'auberge, franchement, les 20 premiers, facile, hein, un bourguignon, blanquette, machin, faillot, enfin, puis après, ouais, consommé de gobelins à la sauce caillou, et puis, après, il faut commencer à chercher. Et du coup, ça oblige à faire travailler son imagination. Et en vrai, au bout d'un moment, y a plein d'idées qui naissent qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait naître. Voilà. Donc, les générateurs aléatoires, c'est pas mal. Et surtout, c'est, encore une fois, c'est des accroches, c'est des références. C'est-à-dire que vous allez à l'auberge, elle s'appelle comment? Elle s'appelle machin. T'as déjà le nom, t'as pas besoin de chercher. Puis des fois, le fait que ça s'appelle la licorne et l'enclume. Bon, la licorne et l'enclume, ok, ouais, mais quand t'arrives dans l'auberge. Ah ouais, mais en fait, c'est une vieille forge naine et il y a une espèce de corne d'accrochée au-dessus du bar qui ressemble à une corne de licorne, mais c'en est pas une. Et en fait, tu commences à improviser les éléments du décor parce que le nom t'inspire des éléments du décor. Voilà. Donc ça peut être assez pratique pour ça. Donc ça, c'est pour la préparation. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais pas si je suis long. Oh, j'ai à peu près fait le tour et on va passer à la mise en jeu, dernière grosse partie. C'est-à-dire, bon, on a tous les éléments, les joueurs sont autour de la table, on se lance. Et comment ça va se passer? Donc, comme je disais, l'idée, c'est de suivre les joueuses, d'être derrière elle, quelque part, et comme disaient les mots du poète, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Voilà, c'est la philosophie fondamentale de la manière de jouer, c'est vraiment cette phrase-là, quoi. On laissera de côté la mort et tout ça, mais vraiment c'est ça, quoi. C'est allez-y, je vous suis, quoi. Mais en tant qu'MJ, quand même, comme avec un gamin de 4 ans, tu es derrière, on va où tu veux. Mais il y a une main devant pour pas que tu tombes, pour pas que tu ailles trop vite vers le gros chien pour lui faire un bisou, etc. Parce que bah ouais, des fois il faut quand même protéger. Il y a des choses qui sont pas possibles. Donc ça veut dire protéger, ça veut dire aussi, vous êtes sûr que vous voulez aller vous taper le dragon là dans la caverne? Vous êtes niveau 1 quand même, hein. Vous avez un plan? Voilà. C'est ça, par exemple, hein, de protéger le truc. De dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris aller voir le dragon, mais vous êtes sûr? Puis après, bon. Donc, dans cette idée de suivre, bah, c'est effectivement bah, commencer déjà, jamais lâcher les joueuses sans un premier point d'accroche. Pourquoi vous êtes là? Ça peut être aussi con que vous venez de par là et vous allez par là, et au milieu, il Il y a des mecs qui empêchent comment dire, un corbillard d'aller enterrer un vieil indien dans le cimetière en haut de la colline. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, les mecs veulent pas y aller, bah on va y aller à leur place. Ok? Qui c'est qui prend les rênes? Le mec au crâne rasé. D'accord? Donc le mec avec le chapeau prend le fusil. Voilà. Et ça, c'est le début des 7 mercenaires. Et typiquement, c'est ça, quoi. Il y a une accroche. Et les mecs se rencontrent et puis bah ça crée quelque chose et puis du coup comme il y a des témoins qui les ont vus être courageux bah des petits paysans comment dire mexicains qui ont besoin d'aide qui les ont vus être courageux bah ils vont les voir et poum 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 l'aventure est faite. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est une accroche. Voilà, et donc et bah, il faut offrir une accroche aux joueuses qui peut être très simple. Vous passez dans le coin et vous voyez un truc. Est-ce que vous réagissez? Alors c'est à ça que ça aide vachement d'avoir justement dans la base du monde, par exemple, défini que les aventuriers sont des aventuriers héroïques et qui ne resteront pas à se tourner les pouces si on ne va pas leur offrir un trésor pour aider les gens. Et qu'ils le feront d'eux-mêmes. Par exemple, c'est une bonne accroche, mais qui est dans l'univers. Et à partir de là, qui sert tout le temps pour faire les trucs. Et donc, bah, est-ce que vous allez aider ou pas? Et puis ça peut être... Il y a telle personne qui vient vous voir, qui dit, écoutez, j'ai un problème, aidez-moi. Ou ça peut être, peu importe, un cousin qui a encore une fois un problème de voiture, il faut l'aider, parce que le temps qu'il aille au garage, il faut garder sa petite nièce de 5 ans, qui est très espiègle. Début de scénario, voilà, en avant. Donc, tout ça, c'est, comment dire... Il faut poser quelque chose qui va faire réagir les personnages. Et à partir de là, à chaque fois, le secret, c'est qu'à chaque fois qu'il est possible que les joueuses en donnent l'occasion, il faut rattacher leur action ou les conséquences de leur action à l'un des éléments du monde. Vous gardez la petite nièce, mais vous l'emmenez boire une glace, et là, vous voyez que c'est pas prévu, hein, mais. Il y a un gang de mecs qui sont en train de racketter la boutique d'à côté. Ah ouais, mais c'est qui ces mecs? On les empêche de racketter? Ouais, mais si vous les empêchez de racketter, ils vont chercheront peut-être à se venger. C'est vous qui voyez. Ah, on va les empêcher, parce que ça fait chier, c'est notre rue. Enfin, c'est la rue de notre cousin. Donc, voilà. Ou on fait rien maintenant, mais par contre, on va aller s'occuper d'eux à un autre moment. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il se passe un truc, on essaie de raccrocher à l'un des éléments, une faction, un lieu, une dynamique, un événement. Donc les événements, ils sont dans les mises en jeu des factions. Quand on a listé telle faction, elle a besoin pour atteindre ses objectifs, elle a besoin de faire ça, besoin de faire ça, besoin de faire ça. C'est des événements en fait. Et bim, on raccroche et on met en jeu l'un des événements, donc la faction devient active. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que c'est possible, ou que les joueuses ont besoin d'une information, ils doivent voir quelqu'un, ou qu'ils aient besoin de faire quelque chose. On fait interagir un lieu, on fait interagir une faction, un figurant, etc. Ou quelque chose, un figurant qui n'est pas forcément nommé, mais qui est dans la zone d'influence d'une des factions, par exemple. Typiquement, si une des factions, comme je disais, si le gang de racketteurs, c'est une faction, ça peut être interagir directement avec le gang, mais ça peut être interagir avec l'une de leurs victimes, ou avec quelqu'un qui a cherché à se venger d'eux, ou avec les autorités qui cherchent à les pincer. Encore une fois, on a un point focal qui est le gang, mais il est au centre lui-même comment dire, d'une constellation de choses, de lieux et de figurants et d'autres factions qui sont pas forcément notées, mais qu'on peut faire apparaître au moment opportun parce qu'on lit de manière cohérente au gang et que le gang, de manière cohérente, il est au centre aussi d'une situation sociale plus diversifiée, quoi. Donc toute l'idée, c'est constamment de lier les actions des joueuses au truc. L'autre idée, c'est que toute action a une conséquence. Les joueuses, enfin les personnages se comportent comme des porcs, Ils seront traités comme des porcs. Et il y aura des conséquences. Ils font une erreur tactique, il y aura des conséquences. Mais d'un autre côté, ils réussissent un truc, ils chassent le gang de la rue. Ok, ils vont plus payer un truc dans la rue. Les commerçants, ils leur font ces cadeaux à chaque fois. Vous passez, poum, des pommes. Voilà. Conséquences. Donc les conséquences positives et les conséquences négatives doivent être prises en compte, toujours. Parce que c'est ça qui fait que le monde il évolue, c'est ça qui fait que le monde il est cohérent, et que les joueuses finalement ont envie de se l'approprier, parce que la moindre de leur action a une importance et a une conséquence. Donc elles ont l'impression de faire des choses, même quelque chose d'aussi basique que d'aider une vieille dame à traverser la rue, a des conséquences. Ne serait-ce que d'avoir un bisou de la vieille dame, ou un bonbon, peu importe. Donc l'idée, toujours, en fait, c'est de guetter les opportunités pour placer les éléments du setting. Ça peut être à l'auberge, un soir, on discute, ouais, alors vos champs, ah ouais, bah ouais, ça se passe bien, nos pommiers donnent bien cette année, ah par contre, on a un problème avec nos abeilles, ah bon, vous avez un problème, et là, tu places un truc qui est prévu, que, en fait, il y a une faction, enfin, ou des monstres dans le fond de la forêt qui bouffent les abeilles, ou qui ceci, ou qui cela, ou il y a une maladie qui s'est, un champignon qui s'est développé parce qu'il y a tel truc, il y a telle menace dans la forêt, voilà. Et, on profite du détour d'une conversation banale avec un PGU pour passer l'idée qu'il y a un écrement dans la vieille forêt. Voilà. C'est con, hein? Mais tout moment est une opportunité de placer des éléments. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement placer des éléments, parce qu'au bout d'un moment, les joueuses, elles ont ras la gueule, elles ne savent plus par quel bout prendre le truc. Mais ça permet de relancer, ça permet de poser des choses. Et si elles se posent des questions, mais en fait, si elles sont face à un truc, mais qu'elles ne savent pas quelles questions poser, ou comment aborder la chose, ou qu'elles ont oublié, parce que des fois, tu poses un truc, puis les joueuses, elles passent, parce que, bon, ok. Si tu reviens un peu plus tard, si la première fois, c'est le PGU qui parle de ses abeilles, qui a un problème de champignons, bon. Mais quand plus tard, dans une autre conversation avec le chancelier du château, il dit waouh, on a des invasions de champignons partout. Comment ça, des champignons? Bah ouais. Ah tiens, mais on a déjà entendu un truc sur les champignons avant. C'est pas un problème, voilà. Par exemple. Hein. Donc on tisse des liens comme ça. Et l'idée d'un sandbox en accompagnant les joueurs, c'est tu les laisses aller où tu veux, mais en fait tu les nourris en permanence d'éléments, mais tu les nourris en fonction de là où elles sont et de ce qu'elles font, et pas d'une attente. T'écris pas un PGU va parler des champignons. Non. Tu sais qu'il y a un problème de champignons, et à chaque fois que tu as la possibilité, que les joueuses t'offrent la possibilité d'en parler, ou de poser le truc, t'en parles. Jusqu'à ce qu'elles s'en occupent. Ou qu'elles aient une idée de quelque chose. Et c'est en ça que suivre les joueuses, ça permet de les laisser aller où elles veulent. Et en même temps, ne pas les laisser isolés, seuls, enfin, tu vois, abandonnés, à pas savoir quoi faire, parce qu'en vrai, elles vont toujours avoir des rappels, comment dire, des choses qui peuvent les pousser, qui peuvent les intéresser, etc. Un des bons trucs, c'est que généralement, par exemple, c'est pas quand il arrive une merde à un PNJ, c'est pas le PNJ lambda. C'est la sœur d'un personnage, ou c'est l'oncle, ou c'est la nièce, ou c'est lui-même d'ailleurs. Hein, le mec dont la voiture est en panne, c'est toi, pas ton cousin, tu vois, par exemple. L'idée, c'est d'impliquer au maximum les personnages en essayant, un peu comme dans presque tout, enfin dans beaucoup de séries, en essayant de faire en sorte que les galères, elles arrivent pas, ou les informations, ou les galères, ou les problèmes, ils arrivent pas aux voisins, mais à toi. Voilà. Et donc, voilà, c'est essentiellement ça. Un des bons trucs, c'est souvent aussi soit par le biais des PNJ, soit par le biais, même en direct, hein, des fois, c'est d'interroger les joueuses. Alors, ça peut être interroger les joueuses via un PNJ pour savoir là où elles en sont, donc via leur personnage aussi, hein, pour savoir là où elles en sont de la compréhension de ce qui se passe, du setting, des événements, des liens qui peuvent être faits, de façon à vérifier que toutes les informations ont bien percolé. Parce que, bah, comme toujours, hein, la répétition fixe la notion. Et quand tu dis un truc une fois au passage d'une discussion avec figurant, ça va pas forcément marquer, surtout si elles prennent pas de notes, etc. Ça peut être oublié 2 séances plus tard, alors que c'était un truc important. Donc, faut pas hésiter à rappeler des choses et puis à vérifier que ça a été enregistré. Alors, ça peut être effectivement via ça peut être effectivement via un PNJ qui profite d'une discussion pour poser des questions aux joueuses et donc avoir des informations et donc éventuellement voir si les joueuses ont bien tout pigé et éventuellement le PNJ peut compléter ou rappeler que ah oui mais en fait votre truc là ça me fait penser que tac tac tac. Ça c'est une solution. Il y a une bonne solution aussi, c'est d'écouter les récapitulatifs en début de partie parce que des fois c'est pas clair. Des fois c'est oui alors on a vu machin à moins que ce soit truc. Enfin, en tout cas, il avait une robe rouge et il nous a dit ça. Non, c'est pas du tout ce qu'il vous a dit. Voilà. Et des fois, ça arrive et tu fais, oh putain, mais non. Donc, pas hésiter à bien écouter les récapitulatifs pour éventuellement, quand c'est vraiment grave, soit se préparer à ramener l'information, soit dire tout de suite, non, c'est pas du tout ce qu'il vous a dit. T'as pas bien noté ou t'as pas bien compris, mais ah bon, je croyais, ouais, il faisait tard, en même temps, j'étais fatigué. Donc, voilà, donc pas hésiter à poser les choses. Et puis, dans le pire des cas, faire une pause dans la partie et dire, bon, les joueuses, les MJ joueuses, il y a quoi que vous n'avez pas compris? Ou peut-être qu'il faut que je vous rappelle 2, 3 trucs par rapport à l'univers ou par rapport à tel truc. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien pigé telle cohérence ou tel élément qui est relativement important. Vous avez pigé qu'il y a un château? Ah bon, t'es sûr? Voilà, ça arrive, c'est terrible. Et tu te dis, bon, c'est soit le messager, soit le réceptionnaire qui a mal compris, ou l'envoyeur, mais putain, ça passe pas, quoi. Donc, bien penser à vérifier toujours, à être. Voilà. Notamment quand il s'apprête à faire des grosses bêtises, où il va avoir des grosses conséquences, alors que c'est basé sur un truc pas compris. Parce que c'est quand même dommage de planter une campagne parce qu'il y a un truc qui n'a pas été compris, quoi. Voilà. D'ailleurs, quand vous jouez en sandbox, beaucoup plus que quand vous jouez en mode un peu linéaire, essayez autant que possible de faire qu'au moins une de vos joueuses prenne des notes et des notes à jour, voire plusieurs de vos joueuses prennent des notes et des notes à jour, voire récompenser la joueuse qui prend des notes. Et qui fait des comptes rendus réguliers. Parce qu'en vrai, justement, comme on est beaucoup dans l'improvisation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites et qui ne restent pas. Quand tu inventes un nom de PNJ, alors c'est un bon truc à faire, moi c'est ce que je fais systématiquement. Hein. Dès que j'ai un nouveau nom de ville que je n'avais pas noté ou un nom de PNJ, pum pum, je prends une note en tant qu'MJ, juste pour avoir des listes de noms. Parce que, ouais, le mec que vous aviez rencontré, là, il s'appelait. Ah oui, c'était Gus. Rappelez-vous, il vous avait dit, ah oui, c'est vrai, Gus, le mec au gros nez. Et là, tu fais, oui, c'est vrai que j'avais décrit avec un gros nez, quoi. Voilà. Et donc, c'est important de prendre des notes, à la fois MJ, mais bon, en partie, on n'a pas le temps de prendre des notes extensives, hein, donc, mais au moins les noms des bleds, les noms des lieux, les noms des lieux-dits. Dès qu'il y a un truc qui apparaît, qui pop, pim, on note. Et on note les choses qui sont liées. Voilà. Et puis, des joueuses qui prennent des notes, c'est quand même vachement bien. Voilà. Donc, tout ça, ça se fait avec beaucoup d'impro. Mais c'est pas une impro. C'est là où c'est intéressant, c'est que le sandbox, c'est pas une affaire de faire de l'impro dans le vide. T'es pas constamment en train d'inventer des choses. L'improvisation, elle est de placer ce qui existe déjà mais de profiter, de guetter les moments et les opportunités pour placer les éléments qui existent. Et fondamentalement, le sandbox, c'est pas compliqué pour ça, au sens où on peut s'en faire une montagne en se disant « Oh, c'est de l'improvisation, je vais jamais y arriver, j'ai besoin d'une histoire écrite. » Et en fait, non, puisque dans un bon sandbox bien préparé, qui ne nécessite d'ailleurs pas des heures de préparation, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, un scénario peut s'écrire en une demi-heure, hein, c'est un sandbox, il ne suffit de pas grand-chose. Mais le travail, c'est de prendre les éléments qui ont été écrits et de les inoculer dans le scénario, dans l'histoire qui va être créée autour de la table. Et de voir comment les joueuses s'en emparent ou pas, comment elles font leur beurre avec, et de réinjecter des choses régulièrement, pum, 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 jusqu'à ce que ça fasse corps, et avec l'idée qu'au bout d'un moment, en fait, si le boulot a bien été fait, par rapport au setting, les joueuses vont se retrouver dans une situation où elles vont avoir à gérer des choix moraux et éthiques compliqués. Des moments où il n'y a pas de bonne solution. Ou alors il faut inventer une troisième solution, sauf que putain, comment on va faire, quoi. Donc tout le boulot, c'est d'arriver à amener les joueuses à cet endroit-là en insufflant des trucs. Donc c'est une improvisation qui est assise, qui est confortable. On se réfère au monde, c'est la cohérence du monde, et puis ce qu'on sait du monde. Ce qu'on ne sait pas du monde, on l'invente, et puis ça devient un élément, une fois que c'est inventé, ça devient un élément du truc. Et puis ensuite, on utilise tout le matériel qu'on a inventé pour l'histoire. Et puis quand on passe à un autre sandbox, bah, on garde le monde, mais on invente, on a un autre contexte, et puis voilà. Donc, on va passer à la conclusion, je pense. La manière dont moi je vois le sandbox, c'est donc finalement pas tant, comme c'était dans le temps, une conception de la préparation du jeu en ayant un monde ultra défini à l'avance, et après bah, il suffit juste que les joueuses voyagent pour qu'il se passe des choses, et parce que tout est déjà prévu, parce que moi ça marche pas, parce qu'on peut pas retenir un truc comme les Wilderlands. T'as 12 cartes, 6 bouquins de 120 pages pour chaque, pour décrire les cartes. Il était impossible de retenir l'ensemble des informations du truc. Et puis, fondamentalement, chaque information, elle est là comme ça, mais elle est posée, mais elle a aucun lien avec le reste. Elle a aucun sens général. Rien n'est donné pour qu'il y ait un sens général. Pour moi, un sandbox doit avoir un sens. Doit avoir une assise, doit avoir une cohérence de propositions. Et à partir de là, on peut improviser, on peut laisser les joueuses aller où elles veulent. Bon. Donc, pour moi, c'est moins une affaire de préparation qu'une affaire de maîtrise, et de laisser le jeu ouvert, libre et ouvert. De jamais contraindre. Sauf via des PNJ qui disent « Non, vous allez faire ça, sinon on vous pète la gueule » ou « Vous allez faire ça parce qu'on vous paye » ou etc., etc., peu importe. Les contraintes, elles doivent être intradiégétiques, s'il y en a. C'est un jeu qui promeut autant que possible la gentilité des joueuses. Elles doivent être actrices de leur histoire, pas consommatrices. Alors, ça ne veut pas dire que c'est piétiner le sentiment des joueuses centaurettes, comme disait Croc, c'est-à-dire les joueuses qui s'installent à table, écoutent, prennent des notes, mais quand tu leur demandes un truc, elles disent « Bon, moi, je fais juste ça », mais sans jamais prendre vraiment le devant sur, sans être proactive et monter des plans compliqués, etc., donc. Et elles sont là pour écouter l'histoire. Et moi, j'ai des joueuses comme ça, et j'ai aucun problème. Notamment parce que toutes, d'une manière ou d'une autre, elles reviennent toutes les semaines, Donc ça veut dire qu'elles prennent leur plaisir. Ouais, qu'on soit clair, elles ont du plaisir à venir, sinon elles ne viendraient pas. Donc déjà, voilà, ça marche bien. Et puis en plus, la plupart du temps, elles prennent des notes de manière extensive. Et souvent, même très souvent, c'est mec, oui, on pourrait faire ça, ouais, machin. Puis là, tu as une petite voix, oui, mais n'oubliez pas ce que nous a dit machin l'autre jour à propos de tac, tac, tac. Et les autres font, oh putain, mais ouais! Et donc, pim, est juste une intervention pour rappeler, ouais, mais la petite voix, quoi, Jiminy Croquette, et pour rappeler qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et donc, effectivement, elles ne sont pas très participantes, donc ça va un peu à l'encontre de l'idée que les joueuses ont de la gentilité, sauf qu'en vrai, elles ont de la gentilité aussi, parce qu'elles sont libres vraiment d'intervenir et de ne pas intervenir, parce que ça fait aussi partie du plaisir des fois, hein, de laisser faire. Ouais, il y a la grande gueule au bout de la table, il vient nous gérer ça. Pendant ce temps-là, nous, on est tranquille, on écoute et on rigole parce qu'on sait qu'il va s'en prendre dans la gueule à la fin et ça va être drôle, quoi. Voilà. Il y a aussi un autre truc important, en tout cas pour moi, maîtresse de jeu, bah, c'est le plaisir que moi, personnellement, je tire de l'improvisation et de ne pas annonner une histoire déjà racontée. Je déteste absolument re-raconter la même chose 23 fois. Et donc, quand tu as commencé par écrire un truc, pim, 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 et qu'il faut reprendre dans l'ordre pour refaire le truc, c'est un chiant. C'est bon, c'est clair. On s'embête, quoi. Enfin, je veux dire, on s'ennuie, quoi. Et là, le fait d'être de maîtriser en sandbox, pour moi, ça m'oblige à être constamment à l'affût, constamment attentif, à devoir faire jouer mes neurones pour trouver les bonnes idées, les bons trucs, à réfléchir, à écouter les joueuses, pas simplement à balancer mon truc en mode cours magistral, mais ouais, c'est presque de l'ordre de la pédagogie active, quoi. Enfin, vive les CMEA, quoi. Enfin, et puis Freinet et compagnie. Enfin, bon, j'ai baigné là-dedans, donc forcément, ça me cause. Mais l'idée, c'est que finalement, tu poses un cadre, et à l'intérieur du cadre, pédagogie institutionnelle, à l'intérieur du cadre, vous êtes libre, mais dans le cadre. Moi, je suis garant du cadre, et à l'intérieur, faites ce que vous voulez, quoi. Et je serai là, parce que c'est mon rôle d'être là. Voilà. Et en tant qu'MJ, c'est hyper plaisant comment dire, d'être titillé, d'avoir constamment cette espèce d'aiguillon à l'esprit qui fait que t'as l'intellect qui doit carburer à 300 à l'heure, qui doit réagir, qui doit trouver des idées. Il y a quelque chose d'assez passionnant, enfin d'assez exaltant à faire ce boulot-là. Donc le plaisir du MJ en sandbox, c'est absolument pas à mégoter. Et puis bon, dernier truc, bah, fondamentalement, c'est surtout que c'est une question de confiance. La MJ doit faire confiance à ses joueuses pour avancer, faire des trucs, doit les écouter, doit être attentif. Et puis les joueuses doivent faire confiance à la MJ en sachant que la MJ n'est pas là pour les punir. Pour les empêcher d'agir, ou pour mettre des murs invisibles, mais qu'elle va les accompagner, quelles que soient leurs intentions, quels que soient leurs plans, quelle que soit la manière dont elles anticipent la suite de l'aventure, dont elles veulent faire des choses, dont elles se fixent des objectifs. La MJ va être là pour les accompagner et pas pour les. Alors, les accompagner en tant qu'MJ, après, il peut y avoir des obstacles, des ennemis, des choses qui se passent, mais ça fait partie de l'histoire. Mais de manière extra-diégétique, elle n'est pas en opposition. Elle n'est pas là pour leur dire, ah non, là, la prochaine étape de l'aventure, c'est d'aller au Kenya. Donc, il n'est pas question que vous alliez à Moscou. Voilà. Voilà, c'est important de comprendre ça. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. Et bah, si vous avez des questions ou comment dire, des contradictions aussi, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, je réponds.
Je vais commencer, c'est directement une confirmation, parce qu'en fin de compte, presque 25 ans de masterisation sur un univers personnel de SF, enfin, c'est presque rare, plus souple, Au final, j'ai eu les premiers scénars de gauche des univers que j'ai apportés aux joueurs. Première campagne, ça a été assez dirigiste. Il fallait faire découvrir et impliquer les joueurs dans cet univers. Puis au final, l'écriture, c'est chiant. Tout se faisait à l'impro sur les idées des joueurs. Chaque joueur venait avec son personnage et son petit background, il créait les liens droite à gauche. Du coup, tout se, comme je disais, se lit. L'histoire, le monde gravite autour des personnages, mais du coup, moi directement, pour un besoin supplémentaire, j'ai un besoin pour telle faction, j'ai un besoin sur tel lieu, parce que voilà. En mêlant ça avec les voyages interplanétaires qui prennent du temps. Et du coup, la temporalité se fait par le choix des joueurs aussi. Au gré d'une mission, on va faire un détour. Pendant ce temps-là, les choses vont se passer dans l'univers. Le retour, c'est que le clash est là, et ça se fait en bac à sable, un peu inversé, mais du coup, c'est les joueurs qui, au final, faisaient vivre l'univers, la campagne, au gré des
C'est
séances.
ouais, c'est exactement ça. C'est pour
Alors,
ça que je
donc, au
disais au
final,
début.
c'est une pratique que j'ai acquise par l'usage.
Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en vérité, ça fait. On joue comme ça naturellement. Enfin, beaucoup de MJ jouent comme ça naturellement depuis hyper longtemps. C'est pas. J'invente rien en fait. Hein. Tu vois, je me suis contenté là pour l'instant d'essayer d'organiser une pensée pour essayer de comprendre le truc. Mais en vrai, je pense qu'on est beaucoup, 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 beaucoup à jouer, à faire à jouer Monsieur Jourdain du sandbox. Et même moi, j'ai pendant plus de 15 ans, je jouais comme ça, comme tu dis, hein, sans savoir que ça s'appelait comme ça en fait.
C'est une question de curseur sur les différentes approches effectivement du générateur à toi ou pas. Au final, c'était à l'impro où j'écoutais. J'ai une anecdote sur ce genre de création. Les joueurs veulent absolument rencontrer les conseillers du gouvernement qui sont en place. Ça n'a pas de nom pour l'instant. Ah, si, tu nous en donnes. Eh ben, pas d'homme et l'instant. Voilà. Ce sont deux personnages qui sont restés forts très longtemps derrière. Toujours rigolo quand ils les recroisent, parce que du coup, ils savent que au côté méta du jeu, ça a été créé n'importe comment, mais au moins ils ont été marquants. Et le bac à sable, l'impro, fait la profondeur du jeu aussi, quoi.
Mais tu parles d'un pro, mais en vrai, en tant que concepteur de l'univers, tu as posé une cohérence à ton
Je suis venu
univers.
avec mes envies et
Voilà. Et puis, tu avais déjà un univers qui pouvait s'exprimer déjà, parce que un des premières manières d'exprimer la cohérence de l'univers, c'est les règles de jeu. Parce que les règles de jeu, elles fixent le moteur physique, elles fixent le moteur social. Tu sais que si tu obtiens tel jet, tu as le droit de sauter par-dessus le fossé. Et si tu n'obtiens pas le jet, tu tombes dans le fond du fossé ou tu t'arrêtes juste avant pour pas le sauter, par exemple. Donc, typiquement, tu fais un jet de, je sais pas, un lancer ou de jet ou de peu importe pour projeter une pierre, tout en sachant qu'elle va retomber. Mais que si elle retombe avec assez de force sur le nez d'un ennemi, ça va faire splorch. Bon. Et puis pareil, si dans ta liste de compétences, tu as charme, diplomatie, machin, c'est le moteur social aussi qui s'exprime par ce biais-là. Donc tout moteur de jeu exprime une cohérence initiale. Et toi, tu as ramené par-dessus toutes tes idées sur l'univers. Et en vérité, tout ce qui était créé par les joueuses à la table et qui était créé par toi à la table, ben, c'était des choses qui arrivaient, mais qui s'ajoutaient à ta cohérence initiale et à tes éléments initiaux et qui faisaient accrétion pour amplifier la cohérence. Et en fait, quand tu improvises, ben, tu te réfères toujours à ta base et à tout ce qui a déjà été joué. Comme tu dis, si on invente des PNJ et qu'ils restent encore pendant je sais pas combien de temps de campagne derrière, tu sais que enfin, ces PNJ-là, ils sont au milieu, et donc tu vas passer ton temps à raccrocher des choses qui va leur donner encore plus de. Voilà. Donc ton improvisation, elle était dans cette idée de, justement, comme tu disais, de tout raccrocher en permanence à des éléments que tu. Et que tu n'as pas forcément besoin de préparer, mais une fois qu'ils sont intégrés dans l'univers, ils sont là. Et donc forcément, pum, t'accroches. Voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. En fait, l'improvisation, elle se fait sur des bases solides et elle se renforce au fur et à mesure, en fait. Et au bout d'un moment, c'est sans effort, en fait. Voilà.
Juste pour conclure mon intervention, moi, c'est que maintenant, je ne crée plus que des jeux où il y a un système de jeu, histoire qu'il va avoir une mécanique particulière, un semblant d'univers qui va cadrer, donc le bac à sable, et puis je fais tout en impro, quoi. C'est à volo, quoi. C'est le plus agréable, effectivement, comme tu disais en conclusion, c'est le plaisir aussi de MJ, c'est... Je vais pas m'embêter avec un scénario ou alors juste un amorce.
Mais en vrai, si mon boulot c'est pas auteur, donc de produire des livres pour les vendre, voilà, je pense que je m'emmerderai pas autant à faire des trucs, même à rechercher les choses. Mais c'est vrai que l'intérêt de réfléchir à ces trucs-là, c'est quand tu dois, par exemple, écrire un scénario sandbox. Comment tu l'écris? Comment t'écris un scénario sandbox qu'on puisse prendre en main facilement, alors que le modèle majoritaire, c'est le scénario temporalisé.
Je voulais revenir. Malgré tout, il y a encore trop peu de scénarios qui sont écrits et produits, hormis le côté littéraire, livresque, tu disais le terme de carte mentale, il y a encore peu de scénarios qui auraient toutes ces tables aléatoires, tout ce que tu as décrit, et avec une carte mentale centrale qui fait toutes ces connexions avec des codes couleurs, avec des images, avec des pictogrammes. Et qui serait super pense-bête, la page unique, parce que les tables aléatoires sont référencées, il y en a peu.
Il y a un problème avec les cartes mentales, parce que j'ai pas mal étudié le truc à un moment, enfin j'ai essayé, hein, forcément, et en fait il y a un problème avec les cartes mentales, c'est que, en vérité, une carte mentale est individuelle. Ouais. Deux individus face à... Une carte mentale, c'est bien pour quand c'est toi qui l'établis pour toi, parce que tu as une logique dans la manière dont tu places les choses. Mais déchiffrer une carte mentale qui a été créée par quelqu'un d'autre, surtout quand elle est un peu complexe, c'est vraiment une tâche très très compliquée qui nécessite, pour ainsi dire, de prendre la carte mentale initiale et d'en refaire une à soi autre. Donc la carte mentale, c'est intéressant, et en fait c'est vraiment pas pratique dans le modèle de transmission. Enfin, c'est pas pratique facilement dans le modèle de transmission. Sauf si, il y a fondamentalement ta carte mentale, tu la construis au fil du bouquin en commençant par dire alors il y a tel truc, poum. Et alors parce que il y a tel truc et tel truc, poum poum poum, etc. Et là, tu peux éventuellement avoir un aspect pédagogique de construction de la carte mentale, mais quelque part, ça défie le principe initial de la carte mentale, qui est de poser la chose à utiliser, poum, puisque tu es obligé d'avoir d'explications pour arriver au truc-là.
C'est plus du synoptique que de la carte mentale.
Voilà. Donc c'est assez compliqué, et puis moi je connais des gens qui sont assez allergiques aux cartes mentales aussi, qui ont un problème. Et donc, la problématique, effectivement, c'est la littérature. Dans le jeu de rôle, c'est une plaie. Les gens écrivent pour faire des phrases, parce que ils peuvent pas écrire de nouvelles ou de romans, parce que c'est vraiment compliqué. Enfin, je veux dire, c'est un boulot. C'est pas parce qu'on a appris à écrire des lettres au CP qu'on est auteur, quoi. Il y a un vrai travail compliqué. Et en vérité, en jeu de rôle, il y a aussi un vrai travail compliqué, mais c'est moins compliqué. Et puis, ça permet finalement à des gens qui ont des aspirations littéraires de s'exprimer et de se faire plaisir. Et qu'est-ce que c'est important de se faire plaisir, quoi, quand même. Merde, on veut pas non plus cracher là-dessus, quoi. Mais et puis c'est pas comme si j'avais pas je me faisais pas plaisir aussi des fois dans mes bouquins depuis longtemps à écrire des phrases à la Proust parce que c'est drôle, quoi. Mais en vrai c'est une plaie, parce que ça noie le poisson là où il faudrait faire des phrases simples et bien organisées, voire des listes à puces, etc. On se retrouve avec des placards où tout est un peu dans l'ordre, ça tombe comme la pensée, elle a amené les choses, et c'est pas remis dans l'ordre, c'est pas restructuré, etc. Je pense qu'il y a un vrai boulot de structuration de la pensée qui est rarement fait dans les scénarios. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, machin, mais des fois j'ai l'impression que les mecs se répètent plusieurs fois, que ça tombe un peu comme ça doit, comme ça, au moment de l'écriture, qu'il n'y a pas forcément une relecture poussée. Comme disait Nietzsche, hein, l'artiste, c'est celui qui sait rejeter, trier, virer, enfin, faire le ménage, et ne garder que le bon. Enfin, faire le, voilà. Pas forcément le génie, hein, qui fait que du bon tout le temps. Non, c'est le mec qui fait des trucs, c'est mauvais, mais il va enlever tout ce qui est vraiment mauvais pour garder ce qui est passable. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas toujours fait, je crois, mais qui est compliqué à faire. Hein. C'est un apprentissage. Et comme c'est un apprentissage, il faut du temps. Et comme il faut du temps, ben, c'est compliqué à faire le soir après que madame ait été se coucher et après une journée de boulot et alors qu'il faut se lever à 6h le lendemain pour y retourner. Quoi. Donc, on n'a pas le temps. Donc, on ne le fait pas. Ben, c'est un métier. Voilà, c'est un métier qui demande de l'expérience, qui demande de l'apprentissage, qui demande de l'investissement en temps. Et on a peu ce loisir. Donc, ben, on fait comme on pense que c'est le mieux. Et souvent, le mieux, c'est ben, finalement, c'est d'essayer d'exprimer sa pensée comme on l'a vu faire ailleurs, dans les livres. Donc, d'exprimer sa pensée sous une forme littéraire. Et c'est bien aussi, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais c'est compliqué, puis c'est peut-être le moyen le plus facile de transmettre une pensée à quelqu'un qui va la lire et qui va devoir la faire sienne. Parce que dans un texte littéraire, on peut articuler des choses, on peut articuler les idées, on peut revenir dessus, on peut... Voilà. Donc c'est un peu l'ambiguïté, en fait, l'ambivalence de l'écriture en jeu de rôle, c'est qu'on est à la confluence d'une nécessité d'écrire sur technique et le plaisir d'une écriture littéraire. Il faut trouver le bon truc, quoi. C'est pas facile. Et c'est vrai que la structure, la manière de structurer un scénario sandbox, moi, je me suis beaucoup pris la tête dessus, hein, puis avec des copains, on a passé des heures à en discuter, en comparant des trucs qui avaient été lus, des campagnes du commerce, des scénarios, en regardant comment c'était fait, en regardant y compris les expérimentations qui sont faites depuis longtemps sur présentation. Et puis, pas oublier par exemple qu'il y a au moins deux systèmes de présentation qui sont à la fois équivalents et pas du tout équivalents, qui sont effectivement le scénario à l'appel de Cthulhu, et puis le scénario de donjon, où il y a des salles numérotées, et chaque salle numérotée a son expression, enfin son texte, quoi. Et en sachant que, en vérité, et c'est un truc qui n'est pas souvent fait, chaque salle est posée, il y a des choses qui se passent, il y a des monstres, il y a des factions, il y a des trucs, mais il n'y a rien qui est fait pour souder l'histoire complète. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été écrites depuis, qui reviennent là-dessus et qui permettent de faire, qui ont vraiment fait mieux, mais moi je prends l'exemple du B4, La Cité Perdue, donc le vieux scénario donjon du début des années 80, qui est un scénario extraordinaire, avec plein de factions, avec des gens qui agissent, qui contre-agissent, mais il n'y a aucun plan général de l'idée qu'il y ait des factions et qui agissent les unes contre les autres. Parce que dans telle salle, au premier étage, tu rencontres tel mec qui est le prêtre des mecs qui habitent dans la pièce d'à côté, et bon, ça prend ça, et qui vénère tel truc, et qui a la clé de la porte de truc. Et puis, à l'étage du dessous, tu as tel autre mec, qui est le magicien de telle faction, enfin d'autres gens. Et en fait, quand tu lis juste le truc, bah ouais, c'est des rencontres dans des pièces, voilà. Sauf qu'en vrai, non, c'est des factions qui sont opposées ou qui ont des choses, parce qu'elles sont opposées à une troisième faction qui est plus dans les profondeurs, etc. Mais il n'y a rien qui est résumé, qui permet d'avoir un environnement de donjon qui soit ouvert. Et d'un autre côté, c'est pas linéaire, parce que tu peux prendre les pièces dans l'ordre que tu veux, donc et tu peux prendre les pièces de la manière dont tu veux. Donc c'est déjà quelque part du sandbox, mais mal écrit, quelque part. Alors, depuis, il y a pas mal de scénarios que j'ai pu lire qui reviennent un peu là-dessus, mais pas toujours complètement. Ou en tout cas, en gardant une forme, une proposition formelle classique. Il y a un résumé de l'histoire, et puis ensuite il y a des choses où on mêle à la fois les factions, les lieux, où les lieux et les factions sont mêlés dans un seul paragraphe, et sans qu'on puisse les détacher facilement quand on lit une première fois. Il faut avoir tout lu pour comprendre que c'est bien des factions différentes et des lieux différents, etc., par exemple. Et qu'il y a une dynamique en cours, parce que ce n'est pas explicité formellement. Donc, c'est vrai que c'est un exercice à faire. Moi, ça fait un moment que sur mon site, dans les gratuits ou dans les bouquins, je propose pas mal de matos. D'ailleurs, qui a évolué avec le temps, parce que tu prends mes premières gazettes d'Argosia, qui remontent déjà à 5-6 ans, à 5 ans au moins, où je faisais du sandbox, mais c'était pas aussi formalisé, aussi carré. Par exemple, pendant tout un moment, je mettais les factions avant les lieux, etc. Et je me rends compte à quel point il y a plein de trucs que je mettais qui étaient encore trop littéralisés, enfin, trop littéraires, alors que j'aurais pu déjà à l'époque beaucoup plus couper. Mais ça, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure, à force de faire, d'avoir des retours. Et en même temps, tu vois, j'ai eu des retours aussi sur mes trucs qui me disaient, bah ouais, mais en vrai, ta découpe faction-lieu, elle n'est pas satisfaisante parce que j'ai besoin que mes factions soient liées à des lieux. Par exemple, les mecs qui me disaient ça, quoi, en me disant, et du coup, je suis obligé de réécrire ton truc pour les rendre. Donc ça veut dire que même ma proposition, elle n'est pas universelle, quoi. Elle n'est pas encore universelle, elle n'est pas encore pratique pour tout le monde. Donc ça nécessite encore de travailler dessus, de travailler sur les formats. Mais bon, c'est en cours. Et sur mon Discord, il y a pas mal de gens qui font des propositions avec des écritures de ce type-là, que je trouve plutôt bien, parce qu'effectivement, comme je disais, je prends le truc, je le lis. Et je peux jouer en 5 minutes, j'ai lu 4 pages, et en 5 minutes je suis prêt à lancer la partie en improvisation, parce que je connais l'univers aussi, mais l'histoire, je la connais pas, les PNJ, je la connais pas, mais j'ai tout ce qu'il me faut pour me lancer.
J'avais des questions aussi, comme tu sais, mon frère et moi, on s'intéresse pas mal à tout ça. Au niveau de tes points d'entrée, justement, tu parlais beaucoup des éléments, des factions, des lieux, etc. Mais est-ce que tu as aussi des intentions, parce que tu as donné l'exemple, par exemple, du scénario où tu avais la vengeance, là, comme thématique. Et est-ce que quand tu n'as pas ce débrief avec les joueurs avant, enfin ce briefing avec les joueurs avant, est-ce que quand tu vas poser tes bacs à sable, tu vas aussi te dire, tiens, je vais avoir tel thème qui va percoler un peu dans la partie ou pas?
Ça dépend vachement. Moi, naturellement, j'ai tendance à ne pas mettre de propos, okay, dans mes aventures ou dans mes campagnes.
Parce que tu vois, je pense à notamment à Wenlock, en fait, avec ses intentions ludonarratives.
Justement, c'est à lui que je pense.
Bah oui.
Parce que c'est le grand Mamaouchi du propos. Et en fait, moi, le propos m'emmerde, parce que...
Ou du thème, tu vois, pas forcément un propos.
Non, mais même la thématique...
Quand tu parlais de la vengeance, tu vois.
Ouais, mais ça, c'est un exemple que j'avais essayé.
Ouais. Ouais.
Et effectivement, on a fait une campagne sur la vengeance, mais fondamentalement, et qui a mené à des belles choses, mais fondamentalement, je laisse le propos naître dans la campagne. Ouais. Parce que je trouve qu'il est plus important qu'il vienne des joueuses que de moi. Moi, s'il y a un truc qui m'embête, c'est intellectualiser le truc en disant, ouais, il y a un propos et je veux raconter quelque chose. Comme si, en fait, c'est un peu comme si, tu sais, j'étais un auteur façon Nouvelle Vague, et j'avoue que je vomis la Nouvelle Vague et Truffaut et les écrits de Truffaut, putain, quel connard, fasciste. Il y a un côté, comment dire, de la part, tu sais, le MJ qui arrive avec un propos, c'est comme si, un peu, c'est, je suis l'auteur, et j'amène quelque chose parce que j'ai une vision de ce qui va. J'ai aucune vision du truc.
Mais paradoxalement, tu cadres quand même les réactions des personnages en leur disant, vous êtes des héros. Donc, tu vois, il y a quand même un genre de. Alors, tu l'appelles peut-être différemment que propos, mais il y a quand même on va dire, une impulsion initiale, un cadre moral que tu fixes.
C'est le terme proposition de jeu, c'est-à-dire un minimum qui permet de.
Oui, oui, il y a une proposition.
De, ouais. On va jouer des mousquetaires, on va jouer des samouraïs, ça y est, il y a une proposition de jeu qui en dit pas trop.
Ouais, mais au-delà de l'univers, parce que là, tu as vraiment une vision où tu dis, les gars, vous êtes des héros, vous êtes bons, quoi.
C'est vrai. Et ça, c'est venu... du fait que j'avais besoin, que j'en avais marre d'avoir des tables où les gens se comportent comme... un coup, c'est des héros, un coup, c'est des connards, un coup... on ne peut jamais savoir, ça dépend de comment la semaine s'est passée, etc. Et surtout en convention, j'ai eu plein de tables, enfin il y a longtemps, hein, ça s'est vachement calmé, surtout depuis que j'ai appris à le premier qui moufte en mode je me comporte comme un salopard, il se prend un retour de bâton de la part d'un PNJ, d'un truc, d'une situation, les conséquences, voilà. Parce que j'ai besoin de positivité quelque part, voilà. Mais, tu vois, quand je dis propos, je veux dire que, tu vois, c'était des discussions qu'on avait avec Wenlock, justement, sur... voilà, on avait bossé sur un projet, et à un moment donné, il dit « Ah, mais en fait, le point commun de toutes les idées que tu as, c'est la famille. » Et donc, le propos de ton jeu, c'est la famille. Et je dis « Ah, bah, ouais, si tu le dis, c'est vrai que c'est pas con, parce qu'effectivement, d'avoir un mot-clé comme ça qui se pose, ça permet... ça fait un lien de plus qu'on peut utiliser pour improviser des choses, pour raconter des histoires. Mais, c'est, tu vois, la famille, la vengeance, l'amour, machin, c'est un peu comme il y a très longtemps, sur une table ronde avec pas mal de monde, c'était il y a longtemps, où je m'étais un peu pris le bec parce qu'il y avait beaucoup de représentants du début du mouvement narrativo-végan. Il y avait des mecs de Silent Drift, il y avait Vivien Fesson, il y avait pas mal de monde. Et la question, c'était les jeux, par exemple, les jeux où on raconte le cancer du papa. À la Festen et tout, mais papa est en train de mourir d'un cancer, mais c'est un connard, et on est tous autour de la table, et on va faire un jeu autour de cette idée-là, quoi. Et moi, j'étais là en mode, mais je m'en tape, je veux dire, un jeu comme ça. Enfin, je veux dire. Moi, si je veux parler du cancer, je peux parler du cancer dans Warhammer, ça marche très bien, ou dans Donjon, ou dans n'importe quoi. J'ai pas besoin d'un jeu spécifique qui a un propos ultra centré sur le truc, parce qu'en fait, je vais me faire chier comme Warhammer. Et du coup, on s'était pris la tête, bon, gentiment, hein, mais j'avais un peu nagé à contre-courant, je le suis toujours, hein, mais j'étais un peu péremptoire et très « oui, c'est comme ça que je pense !» Donc, le mec m'avait fait un peu la gueule et c'était beaucoup foutu de moi après, c'était très drôle, et le public aussi, c'était assez drôle, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette nécessité. Par contre, poser en fait le cadre de « vous jouez des héros », pour moi, ça, c'est de l'ordre du vous jouez des aventuriers, ou vous jouez des Space Marines, ou vous jouez des sorcières, ou vous jouez des mecs qui survivent dans un camp post-apo, ou vous jouez des lycéens queer. C'est pas le propos, c'est la proposition du jeu. Et donc là, vous jouez des héros bienveillants, c'est une proposition de jeu. Tu peux jouer autrement. Mais ça ne m'oblige pas à attacher spécialement les aventures que je vais faire jouer à une thématique plus précise. Ou plus exactement, au cours d'une même campagne, je vais pouvoir, en fonction des PNJ et des trucs, je vais pouvoir aborder plusieurs thématiques. L'amour d'un père pour sa fille, le poids d'un héritage raciste dans l'existence d'un gamin qui se retrouve tout d'un coup en responsabilité, le poids de la haine, de la méfiance d'une communauté vis-à-vis de l'un de ses chefs, etc. Toi, qui sont des propos.
Oui, ou des thèmes à explorer.
Thèmes à explorer et que je vais explorer, mais d'abord qui vont le plus souvent naître de la situation dans laquelle les personnages vont se retrouver, de la manière dont, au moment où elles se retrouvent dans cette situation, je me mets à jouer un PNJ, parce que souvent, entre ce que j'ai écrit et ce que je vais jouer réellement, il y a un fossé. Je veux dire, ouais, ce PNJ, en fait, il est tout le temps en colère, il fait machin, gna gna gna, et en fait, la manière dont les joueuses arrivent au moment de la campagne, et puis en fonction du jour de la semaine où on a joué et de mon humeur personnelle, Ben en fait, ça va être un gros gentil nounours qui s'énerve, mais juste parce que on lui a perdu son doudou, quoi. Enfin, à peu près, quoi. Et je vais faire évoluer les choses comme ça. Et à partir de là, bon, bah, c'est parti. C'est juste un gros nounours qui a perdu son doudou. Voilà. Donc, si les joueuses le retrouvent, il va juste être gentil. Voilà. Alors que écrit, c'était juste le gros connard de service sur lequel on allait vouloir taper, quoi. Bon, voilà, c'est.
Et tu vois, j'ai une intuition là sur au niveau game design sur ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que ce que tu te fixes comme travail à faire, on va dire, pour le bac à sable et pour ce que tu fais dans Arcosia, c'est d'essayer d'établir ce qui relève de la diégèse et ce qui relève du méta-jeu. Enfin, ce qui relève en gros de ce qui peut être abstrait, c'est-à-dire par exemple on a joué à Arcosia hier et tu disais moi, je veux qu'on compte seulement ce qui donne des bonus. Et que tout le reste, si vous avez assez à bouffer, on s'en fout. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si ton boulot, c'était de dire ça, c'est abstrait. Enfin, ça, c'est abstractible. On va mettre des points. On s'en occupe pas, etc. Et à contrario, de dire ça, c'est concret. Ce qui va se passer dans la fiction, ce que va faire la faction, etc. Est-ce que tu partages cette vision-là ou pas ? L'idée de dire, quand tu vas faire ton bac à sable, tu vas dire, ça c'est du concret, c'est du dur, on va dire, et ça c'est de l'abstrait, ça va plus du méta-jeu. Et ce que tu disais, bah, là je vais le placer à tel moment, il y a des éléments un peu flottants qui peuvent être incarnés à différents moments, ça c'est un peu le côté méta-jeu abstrait. Et par contre, la ligne de front de la faction, là où elle va avancer, ça c'est du concret, c'est ancré dans l'univers, quoi.
Je pense que ces décisions-là, par exemple, de ne pas compter les flèches, sauf si c'est des flèches lourdes ou des flèches perce-armure, où là tu payes parce que c'est inconsommable, voilà, c'était l'exemple. On compte pas les rations, sauf les rations qui apportent un bonus, on compte pas tel truc, sauf si, etc. Ça vient essentiellement, en fait, d'une problématique pratique à la table.
De charge donc, cognitive,
de,
quoi.
Ouais, de charge cognitive et de conditions matérielles du jeu. Très attentif, par la force des choses, hein, parce que j'ai une toponymie de joueuse très variée, depuis vraiment la pure centaurette qui, d'une semaine sur l'autre, demande quel dé on lance, alors que ça fait 2 ans qu'on joue dans la même campagne, par exemple, jusqu'à des joueurs et des joueuses ultra spécialistes, des gros joueurs de Magic qui combattent dès qu'ils en ont l'occasion, etc. J'ai tout. Voilà. Et je suis obligé d'écrire, enfin, à cause de ça, je me suis toujours efforcé d'écrire des jeux qui soient aussi simples que possible et aussi riches que possible. Donc, qui puissent convenir aussi bien à une table avec des gamins de 8 ans, dans lesquels, parce que tu enlèves une partie, c'est le cas de travail, enfin, c'est vraiment conçu pour être joué à tous les niveaux, avec des ados, en convention, à la maison, en famille, avec les copains, avec ma table de barbu du mardi où ils sont hyper au taquet sur le moindre truc, etc. Ou même la joueuse à qui on file 43 000 pouvoirs et je sais pas combien d'objets magiques et qui au bout de 3 mois avant la fin de la campagne fait ah mais au fait j'ai des objets magiques, faudrait peut-être que j'en fasse l'inventaire, j'ai quoi, alors que combien de fois il aurait pu faire des trucs avec, mais il avait noté ah ouais j'ai une cape plus machin, ah j'ai un objet de truc, ah, et le jour il se rend compte des trucs comme ça. Voilà. Donc, il y a une nécessité matérielle de jouer et de rendre le jeu facile, quelles que soient les joueuses, quelle que soit l'heure de la semaine. Parce que quand on joue en début de semaine, ça va. Quand on joue le vendredi soir à 20h et que les mecs ils ont leur semaine dans la botte et qu'ils sont juste sur les rotules et qu'à 10h30 tout le monde dort à la table, c'est pas très drôle. Mais bon, voilà, faut faire avec. Hein. On est obligé. Et donc, ça veut dire aussi, tu parlais de charge mentale, enfin de charge cognitive. C'est un des gros trucs sur lesquels j'ai bossé ces dernières années, justement. On s'est beaucoup posé la question de qu'est-ce qui est acceptable pour une joueuse en termes de quantité d'informations à gérer en même temps et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça a été un gros travail qu'on a fait de réflexion, qu'on a fait justement sur Cœur Vaillant, parce que mes premières versions, bon, avec Cœur Vaillant, mais quand on a commencé à travailler sur Cœur Vaillant 2, j'en mettais 10 fois trop. Les joueuses, elles se retrouvaient avec 3 métiers, des pouvoirs à chier dans tous les sens, enfin quatre métiers même, des pouvoirs à chier, des trucs. Et c'était. Et puis plus j'avançais, plus j'étais en mode ouais, alors il y a tel truc qu'on pourrait faire, et bim, je rajoutais. Et les mecs à la fin, ils se retrouvaient, ils avaient 14 cartes devant la. Sur la table devant eux, tu vois. T'imagines, toi, t'as vu hier avec trois cartes, bon, c'est déjà pas mal, quoi. Mais là, des fois, j'ai lancé, je me rappelle, une campagne de cyberpunk où les mecs, ils avaient trois métiers, l'origine sociale, l'origine de je sais plus quoi, plus leur carte de flic qui leur apportait des trucs, plus la carte de la voiture qui leur apportait des trucs, plus. On n'en finissait pas, quoi. Plus la cybernétique, ils avaient deux ou trois cartes de cybernétique chacun, et qui se retrouvaient avec 10 cartes devant eux, quoi. Alors que c'était des joueuses casual, basiques, quoi. En gros, bon les gars, vous avez déjà joué à quoi à Tokaido? Allez, on va faire un World in Flame maintenant. Voilà, c'est.
Cette évolution du système de jeu, que tu as décrit tout à l'heure en conclusion sur le fait de jouer en bac à sable, ce que ça apporte au MJ, moi j'ai noté. Beaucoup plus libérateur, ou du coup le MJ, il joue aussi. C'est-à-dire qu'il interagit, il est actif, il écoute, il observe. Bah, il faut que le système de jeu le permette. Hein. C'est-à-dire que si le système de jeu est complexe comme d'autres systèmes peuvent l'être ou l'étaient.
C'est moins complexe que rigide.
Oui.
Ouais, rigide peut-être. Plus que, parce qu'il y a des systèmes très simples mais qui sont ultra rigides.
Là, ça dépend si t'es l'auteur du système et de l'univers comme moi par exemple. Ouais. Je peux y aller tranquille, mais ça. Quand on prend en main un autre jeu, être MJ et avoir à gérer tout l'univers pour être le garant et aussi se donner ce plaisir en partie, effectivement, il y a une charge en plus pour MJ.
Il y a longtemps que tu écrivais la création de personnages, les personnages pâtes à modeler. Là, l'univers, le mode sandbox, le bac à sable, c'est un petit peu cette idée-là de,
ah, carrément, ouais.
Pâtes à modeler.
Ouais. Bah, l'univers, il naît du jeu. Et le personnage naît du jeu. Effectivement, comme personnage pâte à modeler, effectivement, c'est une expression de ma femme qui voilà, c'est le background, les quatre pages de background de personnage vampire, en fait, non, c'est ils vont s'écrire dans les deux premières séances de jeu, quoi. Rien à foutre d'écrire 12 pages de background, parce que la plupart du temps, le MJ va pas savoir quoi en faire, ou ça va détonner par rapport à, enfin, plus exactement, la joueuse va arriver avec des préconceptions qui vont à peu près nécessairement se retrouver en porte-à-faux avec les préconceptions de la MJ. Alors que si les deux arrivent presque sans préconception, ou le minimum possible, mais conçoivent ensemble le perso et le setting qui va autour du perso, et le conçoivent par la pratique, pas par une discussion où finalement ça va rester, ça peut rester flou, voilà, bah, par la pratique de jeu à la table, l'univers, il va vraiment se construire en commun, quoi.
Et la cohésion entre les joueurs et les joueuses est renforcée.
Ben voilà.
De manière très pragmatique, du coup.
Ouais. Et je pense que c'est, ouais, pragmatisme, tu vois, pour revenir à tes questions, le truc, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les joueuses, bah, c'est pas un objet abstrait et parfait, et théoriquement parfait. Ça n'existe pas. On a des toponymies de joueuses qui sont très très différentes. Les typologies de joueuses qui sont très différentes. On a on a des nécessités qui dépendent de là où on joue. On joue pas pareil à la maison qu'en club. On joue pas pareil à la maison qu'en distanciel. On n'a pas les mêmes outils. On n'a pas le même temps. Moi, à l'époque où je faisais, on allait à la MJC à 6h le mercredi soir et on partait à 6h le matin. Il y a longtemps, et je fais plus, je peux plus faire ça. Mais à l'époque, bah ouais, 12 heures d'affilée toutes les semaines, et puis le mercredi soir, le samedi soir, le vendredi soir, le dimanche après-midi, voilà, on jouait, et le lundi soir, voilà, c'était on faisait des grosses parties tous les jours. C'était pas les mêmes conditions de jeu qu'aujourd'hui. Enfin, un truc con, mais à l'époque. Comme on jouait, comme en club, on jouait, ouais, on jouait beaucoup. On avait, je sais pas, 6 ou 7 parties par semaine. Si une ou deux parties étaient moins intéressantes, plus molles, ou s'intéressaient plus à d'autres joueuses qui étaient là pour ces parties-là précisément, et que nous on était là pour faire nombre, bah, c'est pas le problème, parce que ok, la qualité est pas là, ou pas complètement là, mais on s'amuse quand même, et puis c'est pas grave parce qu'on a 5 autres parties dans la semaine pour s'amuser vraiment, hein, pour faire nos trucs, et certaines parties en solo, et certaines parties où on est juste 2 ou 3, où on est vraiment complètement dans le truc, et c'est à nous que ça s'adresse, hein, tu vois. Donc, alors qu'aujourd'hui, quand tu fais une partie par semaine, ou 2 parties par semaine, enfin voilà, et qu'il y a certaines joueuses qui jouent une fois tous les 15 jours, bah, la fois tous les 15 jours, elle doit compter. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Donc, tu vois, ça fait partie des conditions matérielles de... Ce serait marxiste, hein, finalement, comme application du jeu de rôle, mais on est contraint par les conditions dans lesquelles on joue, quoi. Et moi, il y a plein de mécaniques que j'aime beaucoup, et plein d'univers que j'aime beaucoup, mais je me rends compte que je peux pas les proposer parce que ça nécessite d'avoir des joueuses qui soient extrêmement au taquet. Par exemple, j'avais écrit 6 et 20, qui est un gratuit, qui est sur, enfin, qui est pas dans les gratuits, mais dans les jeux de rôle anciens gratuits, qui est un système que j'ai utilisé pour maîtriser notamment pour maîtriser une des AP Pathfinder il y a longtemps. Et c'est un système OSR, mais dans lequel j'avais poussé très très loin l'aspect tactique des batailles, des combats, sur plan, avec les figurines, avec les trucs, etc. Et c'était très très poussé, avec à la fois inspiré de D&D 4 et de choses encore que j'avais poussé, plus des réflexions que j'avais eues avec un copain qui faisait des AMHE. Donc on réfléchissait à comment transcrire sur table la réalité d'un combat en AMHE, quoi. Donc on avait un peu bossé le truc, quoi. Et on avait fait une campagne, mais j'avais la chance d'avoir une table de joueuses tactiques qui s'étaient investies dans le système, qui le connaissaient presque mieux que moi, par certains côtés, qui avaient accepté de jouer le jeu et de s'investir dans ces trucs et dans des combats qui étaient pas forcément longs, hein, mais qui étaient précis, vraiment, voilà. Millimétré, quoi. Avec, tu as des demi-mouvements, tu te déplaces que d'une case, tu as un décalage, tu machin. Quand tu es en coin, tu peux taper en diagonale, mais ton bouclier, tu peux l'utiliser uniquement si tu es de ce coin, tu défends, parce que ton bouclier est du bon côté pour défendre, mais il compte pas si tu es du mauvais côté, enfin s'il est contre le mur, enfin tu vois, on allait jusque-là, quoi. Donc c'était pas. Par contre, ça faisait des combats incroyables, enfin ça faisait des situations tactiques dans lesquelles le moindre choix tactique était vital. Mais impossible de proposer ce truc-là à toute autre table que celle-là. Je ne pouvais pas proposer le système en convention, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas proposer le système à mes autres tables avec des joueuses un peu plus casuales, ce n'était pas possible. Et pareil, le vaste monde. Je me suis fait plaisir avec le vaste monde, j'ai fait une super campagne sur le vaste monde. Pareil, avec des joueuses qui se sont investies dans le background. Le jour où j'ai présenté le vaste monde en convention pour la première fois, je me suis ridiculisé. Parce qu'on avait 4 heures de jeu, le temps que je présente le monde, il y avait déjà 2 heures de passé. Et les joueuses faisaient la gueule. Parce que 2 heures d'infodump en convention, elles ne sont pas là pour ça. Et j'étais mortifié, vraiment, mais humilié, quoi, par le truc. Alors que j'avais prévu, le pire, c'est que j'avais prévu une intervention en 10 points, quoi. Je vais présenter le monde en 10 points, ça va me prendre un quart d'heure. Ah, puis premier point, deuxième point, je commence à faire une digression, je pars, machin, je reviens, le plan à la sauce, 2 heures d'infodump. Et là, je me suis dit, bah non, ça c'est l'exemple d'un univers littéraire. Je me suis fait plaisir à l'écrire, où tout est, voilà, ça marche pas, je peux pas le présenter à 80% des tables avec lesquelles je joue, je peux pas le jouer. Je ne peux pas le présenter à mes enfants, c'est compliqué. Je ne peux pas le présenter sur ma table familiale. Je ne peux pas le présenter parce que c'est trop d'informations, c'est trop compliqué pour faire quoi que ce soit. Et c'est ce qui m'a amené à créer Argosia, la toute première version en vidéo il y a 5-6 ans. Et c'est ce qui m'a poussé à créer un monde dans lequel tout tient en 4 pages, enfin 3 pages Word. Et... ouais, il y a des nains, il y a des elfes, il y a des gnomes, il y a des humains, il y a de la magie, il y a des monstres, il y a des dragons, il y a des prêtres, il y a une religion, il y a de la magie, machin. 4 pages, enfin 2 pages et demie.
Et la pierre tombe comme ça.
Plus la vidéo, hein.
Et la pierre tombe comme ça.
Voilà, et la pierre tombe comme ça. Et on joue avec ça. et je ne crée pas d'autres backgrounds. Alors bon, depuis... qu'on soit clair, si on va aller par là, tu vois, le... Ouais. Ça, c'était le monde initial, 4 pages, voilà, d'Argosia. C'est le pamphlet initial. Et j'ai rajouté le reste pour faire bonne mesure. Mais en vérité, le jeu, il est présenté vraiment pour dire, vous jouez avec les 4 premières pages, et le reste, c'est seulement si vous avez envie, quoi. La profondeur, c'est si vous avez envie. Mais vous jouez avec les 4 pages. Et les gens, et vous utilisez ce que les gens amènent à la table, de leur perception du médiévalisme, de leur perception de la magie, du fantastique, etc., leur propre connaissance, et on fait avec. Si à la table, j'ai 4 doctorants en histoire médiévale, on joue avec. Pas de problème, je peux suivre, plus ou moins. Mais voilà, si j'ai 4 ados qui se sont arrêtés, les chevaliers, le grand imagier des chevaliers quand ils étaient gamins, voilà, et ben on joue avec ça aussi, parce que on s'en fout, enfin, tu vois, c'est pas problématique, quoi. Mais il faut cette simplicité. Et de la même manière, au niveau des règles, il faut cette simplicité. Et justement, Cœur Vaillant, en fait, c'est venu parce qu'il y avait Cœur Vaillant 1. Mais Cœur Vaillant, il y a des tableaux, il y a des chiffres, il faut faire des additions, machin, etc. Bon. Et à la table, ça marchait, c'était assez simple, ça marchait. Puis un jour, j'ai fait Argosia de poche. Et apparaissent les métiers. Et disparaissent les chiffres et les bonus. Et je pose ça à la table. Il y avait ma femme et mes enfants. Une des premières parties que j'ai faites, c'était avec ma femme et mes enfants. Et j'ai vu leur regard faire oh, c'est simple, on comprend. Et je pense que pour la première fois en 25 ans, ma femme a fait son perso tout seul. Parce que rien à foutre. Enfin, faire un perso, ouais, bah dis-moi ce que je dois faire. La technique ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'il veut, c'est les histoires. Elle est là pour les histoires, elle est là pour interagir dans les histoires, etc. La technique, elle s'en tape. Et là, la deuxième fois qu'on a joué, elle a fait « file-moi tes feuilles, je vais faire mon perso ». Et j'hallucinais, quoi. Et elle fait ses persos tout seule, son Cœur Vaillant. Elle connaît le truc, elle suit le déroulé, elle choisit ses cartes, et machin. C'est bon, on joue. Ben voilà, et les yeux de plaisir des enfants qui font « ça y est, on comprend le système de jeu ». Je dis « ok, c'est bon, j'ai un truc ». Et donc, bah, tout Cœur Vaillant 2 est basé sur cette expérience de « ok, c'est simple ». Et quand j'ai proposé le truc à mes joueuses aguerries, elles ont fait « ouais, c'est pas mal, parce que si je prends ça, je prends ça, je prends ça, putain, ça va te déchirer ». Et je dis « ok, ça combotte aussi, c'est bon ».
La simplicité est hyper libératrice, parce qu'elle invite aussi à l'imaginaire, et il y a des connexions qui se font, et ça marche.
Et comme c'est simple, les joueurs se posent jamais la question de est-ce que je peux faire ça ? Parce que elles sont pas là en train de s'interroger est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que les règles vont m'autoriser à faire ça, plus exactement ? Elles se posent jamais cette question-là. Elles se posent seulement la question de est-ce que je peux le faire ou pas ? Est-ce que j'ai envie de le faire ou pas ? Mais jamais est-ce que les règles vont m'empêcher de faire un truc ou vont m'autoriser à faire un truc ? Ça, ça c'est libérateur pour du sandbox, hein, c'est clair. Des règles qui te disent systématiquement ben non, ben il y a un moment où tu joues pas avec, quoi, enfin où c'est compliqué, quoi. En tout cas, c'est compliqué pour un certain nombre de choses, pas forcément pour tout, mais.
Les joueurs moins habitués, les joueurs les choses moins habituées, la simplicité de la fiche ne crée pas un carcan, donc elle laisse la place à la possibilité, quand il y a une fiche avec plein de bonus, plein de trucs, plein de tout ça, pour des néophytes, des novices, tout ça, ça étouffe.
Ça faisait partie des trucs, justement. Encore une fois, on revient sur la matérialité des choses. La nécessité d'avoir un monde simple et d'avoir des règles simples, mais riches, et d'avoir une feuille de perso facile à prendre en main, c'est une nécessité, c'est une réflexion qui est menée justement pour arriver à un usage réel On en revient toujours à ça, à l'usage réel de ce qu'on écrit et de ce qu'on conçoit à la fois comme règle, mais aussi de la manière dont on écrit un scénario. Quel est l'usage réel d'un scénario? Est-ce que c'est le lire et se faire plaisir en ayant une lecture littéraire d'un scénario qu'on lira jamais? Ou est-ce que c'est d'avoir un truc... Voilà. Et typiquement, tu vois, je causais avec Emmanuel Garbi de Jundo, là, mon vieux collègue, qui reconnaît que il a lu mes scénarios sandbox, et il reconnaît que c'est carré, c'est jouable, mais ça fait chier. Parce qu'il lui manque le souffle littéraire qui va l'emporter, qui va lui donner des images, qui va lui faire créer un univers dans sa tête au moment de la lecture, et que moi je lui donne pas. Et donc, alors ça fait partie des projets peut-être que je lui ai proposé sur des trucs, parce que c'est d'essayer d'écrire selon ma structure, mais en y ajoutant le souffle littéraire qu'il a besoin d'ajouter, d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas comment il va faire, hein. Peut-être que lui ne le sait pas non plus encore, mais voilà, il y a cette question aussi qui s'est posée et qui se pose de comment on va trouver l'équilibre entre du pur utilitaire et du plaisir de lecture, parce qu'il ne faut pas mégoter le fait que quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de jeux de rôle achètent du jeu de rôle pour le lire et pas pour l'y jouer.
C'est un challenge pour le futur exil.
Hein?
C'est un challenge pour le futur exil. Pour la deuxième édition d'exil.
Alors pour la deuxième édition d'exil, c'est peut-être on en cause.
J'aurais dû vous abandonner, ouais. Mais pour mieux te retrouver tout à l'heure.
D'accord.
On vient jouer tout à l'heure à Ragosia.
D'accord. Et ben écoute, on n'aura pas beaucoup de temps cet après-midi. À chaque fois, j'ai largement dépassé, mais là, comme il faut qu'on finisse après. Vraisemblablement, j'ai joué deux fois ici hier, donc ça, d'accord, va être encore ici cet après-midi.
14h,
ouais, je crois.
Ça marche. Voilà. Tout à l'heure.